Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Point & Think. Je suis Julien, et aujourd'hui on se retrouve pour notre sixième Agora, qui va être consacré cette fois-ci au financement dans le jeu vidéo, et un petit peu sur le plafond de verre qu'on peut rencontrer avec les parcs de consoles pour financer des jeux, et un petit peu tous les sujets qui gravitent autour de ça. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Stéphane, de l'équipe de Point & Think. Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va très bien, et toi?
Ça va super, surtout qu'on est entouré d'un super casting. Comme à chaque fois avec les Agora, on préfère ne pas juste parler de sujets entre nous, on préfère avoir des gens de l'industrie, des gens qui sont plus experts que nous dans ces domaines-là. Donc ce soir, on a un super casting. Avec nous, on a deux invités. On est accompagné de Emma Razaïzia, qui est le directeur transmédia et business développement chez Ubisoft, qui va venir ici du coup pour parler en son nom un petit peu, puis nous aider un petit peu avec son expertise. Comment tu vas, Emma?
Écoute, ça va super bien, ravi d'être là avec vous. On se le disait tantôt, ça fait un bon moment qu'on ne s'était pas reparlé dans ces conditions, donc très heureux d'être là avec vous.
Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que tu étais un des premiers, même à nous soutenir en plus sur les réseaux sociaux, donc on avait ton nom dans un coin de la tête. On t'avait déjà eu en interview, Brian t'avait interviewé sur le site, on mettra le lien en description si vous voulez en découvrir un petit peu plus. Et on est aussi accompagné de Yves Le Yawank, qui est Chief Content Officer chez Focus Entertainment, et qui a bien voulu accepter aussi de participer ce soir, pareil, pour amener un petit peu son expertise. Merci à toi Yves, comment tu vas?
Super, merci, et merci pour l'invitation, et merci pour les super podcasts sur Chant of Scénar aussi.
C'est vrai, c'était un des premiers podcasts qu'on a eu. Pour une petite info, ça a été les premières personnes à nous dire oui, donc on n'est pas peu fiers, surtout vu l'évolution de Chant of Scénar derrière, donc c'était avec plaisir. Pour rappel, je le rappelle une dernière fois, mais Emma et Yves sont là vraiment en leur nom, puis vraiment pour apporter leur expertise, donc on ne parle pas en nom d'Ubisoft, en nom de Focus, on est vraiment là pour faire une table ronde entre nous sur ce sujet-là. Pourquoi on voulait aborder ce sujet dans l'Agora? L'Agora, c'est un format qu'on essaie à chaque fois d'aborder un peu des sujets d'actualité, et là tout ce qui est financement de jeux vidéo, combien ça coûte de faire un jeu vidéo, on trouve que c'est un sujet qui est important parce que c'est, je pense qu'on est tous témoins ici, c'est qu'il y a un sujet qu'on voit passer tout le temps sur Twitter, un peu à toutes les sauces de un jeu ça coûte tant à faire. Les licenciements, tout le monde devient un expert d'un seul coup en RH en ce moment, surtout quand malheureusement on a des exemples quasiment tous les jours. Donc on trouvait que c'était important aussi de revenir presque sur les bases de comment est-ce qu'on fait un jeu, combien ça coûte de faire un jeu. Et c'est pour ça du coup qu'on a qu'on est avec vous Emma et Yves pour avoir un petit peu aussi les deux profils de combien ça coûte des jeux AA, AAA, des jeux plus indépendants et voir un petit peu tout ça. Le constat qu'on avait, c'était notamment il n'y a pas longtemps, moi je regardais le documentaire sur The Last of Us qui était sur YouTube. Et ça faisait penser un petit peu, parce qu'on parlait en off, là, tous les pas mal de licences Sony, notamment Horizon, God of War et même The Last of Us 2, qui sont des licences qui coûtent plus de 200 millions, voire plus encore avec le marketing. Et je voyais passer un article, il me semble que c'était dans Game Developer, qui disait qu'au final, à ce prix-là, on tombait presque sur des jeux vitrines. On n'est pas sur des jeux Grand Theft Auto qui deviennent rentables. C'est rentable, pour le coup, parce que ça continue d'exister et tout, mais c'est pas non plus... Il faut tellement que les jeux fonctionnent et cartonnent que ça en devient des jeux vitrines, des jeux références. Il y a presque un parallèle à faire au final avec le cinéma, avec les films Marvel, avec des budgets qui explosent à 200-300 millions pour des films moyens et qui n'ont même pas droit à l'erreur, qui doivent cartonner, ultra cartonner pour devenir rentables. Donc on voulait un petit peu partir de ce point de vue-là, de à quel point c'est sain d'avoir des références comme ça, pour le coup, d'avoir des locomotives un petit peu comme ça dans l'industrie. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi un petit peu pour le reste de l'industrie, pour des jeux indépendants, comment exister un petit peu là-dedans, combien ça coûte de faire un jeu indépendant et de faire vivre ce type de jeu-là. Combien ça coûte un triple A, maintenant, un petit peu aujourd'hui. Donc, voilà, c'était un petit peu le point de départ. On pouvait aussi parler de Rebirth. On en parlait en off avec Square, qui est un jeu long, qui est un jeu qui a pris pas mal de temps à se faire aussi, qui est un jeu qui est réputé pour être long à faire en jeu, pour le coup, qui a, je pense qu'on peut taper facilement la centaine d'heures, voire plus. Personnellement, j'y suis pas, mais Stéphane, t'es en plein dedans. Et c'est des jeux chers à faire, du coup. C'est des jeux qui ont un côté un petit peu rétention dans le sens, du coup, niveau complétion, tu peux y passer pas mal d'heures. Donc, c'est un modèle qui est intéressant. Donc, voilà, petite description un petit peu de tout ce qu'on voulait aborder. Et je pense qu'on... Est-ce que ça vous va si on commence par parler un petit peu des coûts des triple A, un petit peu comment justifier ça, comment attaquer ça? Encore une fois, moi, c'est ce que je trouve intéressant avec le début d'année 2024, c'est surtout les jeux japonais qu'on a vu arriver. Comme Yakuza Infinite Wealth, même Dragon's Dogma, Rebirth, qui sont des jeux qui sont très longs, avec des budgets assez conséquents, et qui servent un peu de locomotive, en tout cas qui sont bons. À quel point, du coup, ces modèles-là, pour vous, c'est des modèles qui sont sains à poursuivre un petit peu dans l'industrie du jeu vidéo? Stéphane, si tu veux commencer, ou qui veut commencer, là, pour le coup, un petit peu là-dessus?
Oui, je peux dire quelques mots, et effectivement, Mais on le voit de manière générale dans l'industrie, il y a une. Enfin, moi j'ai le sentiment, en tout cas dans les AAA, les jeux sont de plus en plus longs. C'est-à-dire que par exemple, si je prends des licences que j'aime bien, comme Last of Us, t'en parlais tout à l'heure, donc Last of Us 2 qui a coûté qui a un budget de plus de, enfin, de 220 millions d'euros, enfin dollars, bah, tu vois que c'est un jeu qui dure aujourd'hui plus de. Donc, allez, une quarantaine d'heures, là où le premier par exemple durait une vingtaine d'heures, et c'est vrai que déjà rien que là-dessus. Au-delà des évolutions technologiques, faire des jeux plus longs, c'est forcément plus cher, parce que y a plus de matière, on va dire, dedans. Et donc, c'est vrai qu'on ressent, je trouve, en tant que joueur, parce que ça a directement un impact sur notre manière de jouer, on ressent le fait que les jeux sont de plus en plus massifs, là où peut-être, il y a quelques années, c'était moins le cas. Et après, sur le financement, bah, on pourra laisser Yves et Aymar en parler, ils en parleront mieux que nous, mais effectivement, un jeu... Aujourd'hui, ça coûte cher pour plein de dépenses, mais je pense notamment aussi à la masse salariale, du fait que les équipes sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus de personnes, que ce soit dans les équipes ou dans les équipes de Presta à côté, et bien, qui participent au développement d'un jeu, bien, forcément, ça coûte très cher. C'est, je pense, le premier poste de dépense dans un AAA, mais du coup, je vais laisser nos invités en parler un peu plus.
Bah écoute, moi, si tu veux, sur le premier point qui est l'intérêt des AAA, est-ce que c'est un modèle qu'il faut poursuivre, c'est quelque chose de compliqué. Il y a presque un côté l'œuf ou la poule, en fait. Hein. Les triple A sont aux jeux vidéo ce que les blockbusters sont au ciné, nécessaires pour attirer les masses dans les salles et pour permettre à l'industrie de vivre. Si tu prends ces 25 dernières années, donc je vais carrément large, et tu regardes le top 10 des ventes tous les ans, la chance que 90% des premières places soient trustées par des triple A, voire presque souvent les mêmes franchises, sont quand même assez élevées. Donc est-ce que c'est nécessaire? Bah, d'un point de vue industrie pure, hein, segment pur, c'est en tout cas c'est une réalité, c'est même pas discutable. C'est vraiment tu peux avoir des nouvelles licences surprises ou autres qui arrivent, et très généralement ce sont des gros AAA. Donc du coup, c'est évidemment le fer de lance, la vitrine de l'industrie du jeu, au même titre que les gros films hollywoodiens sont souvent la vitrine de ce qu'est le cinéma, et fort heureusement. Ça se limite pas à ça, ni pour le cinéma, ni pour le jeu vidéo, on n'est pas que là-dedans, heureusement. Et du coup, oui, en fait, c'est même pas une question de est-ce que c'est un modèle à suivre. C'est un modèle qui, pour les gros éditeurs, est nécessaire, puisque les gros éditeurs, c'est comme les gros studios, ce sont des énormes machines qui coûtent très 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 cher. Et je sais qu'on a tendance à voir le coût de développement d'un jeu vidéo sous le prisme du jeu vidéo tout seul. C'est-à-dire, on se dit combien ça coûte Last of Us. En réalité, il faut se dire que Sony, qui est l'éditeur, dans sa tête et dans une année, il ne finance pas 4-5 ans de Last of Us, il finance une des années d'un des jeux Naughty Dog, en parallèle de dizaines et dizaines d'autres titres en même temps. Donc en fait, il y a vraiment un roulement, et comme les gros studios de cinéma, bah, les éditeurs en fait ont un portfolio qu'ils gèrent, et très souvent l'objectif est de se dire qu'avec un ou deux gros titres qui cartonnent, je parle vraiment de carton, on arrive à financer bah, tout ce qui se fait autour, tous les autres jeux, et on va le rappeler, je vous l'avais déjà dit, et on le dit souvent, et ça étonne les gens, mais une grosse majorité des titres de jeux vidéo qui sortent ne sont pas rentables. C'est quelques titres très rentables qui permettent à tous les autres jeux de sortir. Mais on le voit assez régulièrement quand on entend aujourd'hui, en 2024, l'année dernière, 2023, on entend certains gros AAA qui communiquent activement en disant « on a réussi à faire 1 million de ventes », je veux dire, au coût actuel d'un AAA, 1 million de ventes, il n'y a pas de quoi sabrer le champagne, hein, c'est plutôt catastrophique en fait. Donc c'est effectivement ce qui est problématique aujourd'hui, et ce que vous avez souligné, puis après je vais laisser la parole pour parler du reste, mais ce qui est problématique sur le AAA en soi, c'est que les coûts, en général, à chaque changement de génération, ont tendance à augmenter. Et là, on rentre vraiment dans le dur de la nouvelle génération, où on abandonne complètement les consoles précédentes. Et évidemment, les coûts ont encore explosé, et je parlais en parallèle, j'en avais parlé chez Gags, de l'évolution du prix du jeu vidéo, qui lui, en fait, n'a jamais suivi la courbe d'inflation depuis les années 90, en fait. Et du coup, le jeu vidéo, et on a entendu plein de CEO, que ce soit chez Take-Two, chez Capcom, l'aborder, et on sait que ça fait vriller les auditeurs, les joueurs des condis, quand on dit le jeu vidéo n'est pas assez cher, dans le sens, son prix n'a pas suivi non seulement l'évolution, mais alors encore moins la courbe des coûts. Parce que on parle simplement de manière brute, si tu traduisais le prix d'un jeu des années 90 aujourd'hui, on serait déjà dans les 120-150 euros, en considérant que le jeu, de son côté, se fabrique de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une cartouche qu'on fabrique en usine, ou alors un CD-ROM, un CD qu'on va graver, on est sur le support CD, et à côté de ça, une équipe de 150, 200 personnes maximum sur un triple A. Aujourd'hui, on est sur des équipes de 1200, 1500 personnes. Enfin, les coûts, ça n'a absolument plus rien à voir, quoi. Donc, comme on est dans une espèce de course à l'armement, et qu'en parallèle, eh ben, le marché, ben, il est assez limité, ça donne des situations très complexes pour le triple A. Mais c'est nécessaire. C'est même pas une question, en fait, qui se pose. C'est nécessaire dans l'industrie.
Non, complètement. Je pense que le parallèle que tu fais avec les années 90, c'est vraiment ça. T'as même pas mentionné, mais je pense qu'en marketing, c'était pas du tout les mêmes coûts marketing que ce qu'on peut avoir maintenant. Le jeu vidéo était pas en même stade.
Alors en fait, ça c'est variable. Parce que quand Nintendo... En fait, pas partout. Chez nous, non. Mais aux États-Unis, par exemple, quand Nintendo et Sega se sont livrés une grosse bataille sur place, les coûts engendrés étaient assez démesurés parce que Nintendo voulait sortir des marchés, des boutiques de jouets, de la distribution en tant que jouets, et voulait s'imposer ailleurs. Et ça a coûté énormément d'argent de marketer les consoles comme étant quelque chose d'autre. Et il y a eu des tours avec des bus sur les universités pour faire jouer les gens, les World Tours, tu te rappelles, avec les cartouches où t'avais plusieurs jeux avec des t'sais, ils mettaient quand même un gros budget pour installer le fait que le jeu vidéo, c'était un loisir à part entière. Donc, c'était quand même relativement cher pour l'époque, le marketing.
Et le parallèle intéressant, je trouve, au final, c'est, comme tu dis, l'avancement technologique. On peut faire le parallèle avec le cinéma. Notamment, Blockbuster, on va dire que ça implique souvent des gros VFX, des gros effets visuels. Je schématise involontairement, mais pour aller au point. C'est qu'au final, c'est des médiums, surtout le jeu vidéo, qui dépend tellement de sa technologie que, ouais, forcément, les coûts de production vont monter. Et c'est que malheureusement, plutôt que de faire monter les prix de vente, on voit les impacts ailleurs, pour le coup. Les licenciements, c'est un bon résumé de tout ça. Enfin, c'est pas un bon résumé, mais c'est un bon effet de tout ça. Il n'y a pas que ça, hein. C'est pas que ça, bien sûr. Mais c'est souvent le facteur humain qui va prendre un petit peu là-dessus. Je parle même pas des crunchs, etc. Mais du coup, ouais, c'est intéressant de voir que ce prix de vente, il est toujours à 70 euros. Et même 70 euros, on commence à râler et on essaie d'imaginer des jeux qui sont à 30 euros pour des jeux indés, par exemple, où on trouve ça cher. C'est un truc qui est... comme tu dis, c'est pas réaliste, en fait, pour le coup. C'est ça qui est intéressant.
C'est ce qui a donné naissance, en fait, à pas mal d'autres façons de ventiler les coûts, en fait. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, se plaignent. J'en avais parlé aussi, on en parle en général assez souvent, mais l'existence même des microtransactions, des DLC, des nouveaux modèles d'affaires avec les jeux free-to-play, du e-sport, avec ce que ça peut générer, tu sais, en venue, c'est-à-dire le fait de venir dans les stades, de payer son billet, les produits dérivés, le transmédia, que je connais très bien, donc de ressortir, en fait, finalement, ton IP sous la forme d'une série qui va générer d'autres formes de revenus, qui va ouvrir à d'autres marchés, qui va vendre d'autres produits dérivés, c'est des façons de valoriser, en fait, le travail qu'on a fait sur nos marques et d'aller chercher, en fait, de l'argent ailleurs pour ne pas avoir à trop toucher le prix plancher parce qu'on sait que le joueur est pas prêt à accepter. C'est comme ancrer les augmentations de prix. Au maximum, tu vas avoir des 10 euros qui vont bouger sur un gros changement de génération, mais c'est très difficile d'avoir autre chose. Et c'est aussi l'existence des grosses éditions collector, des season pass, etc. Parce que voilà, tout ça permet d'augmenter le revenu moyen par acheteur.
Et c'est que tu soulignes un truc qui est intéressant sur les modes de financement. C'est à quel point, au final, maintenant, la rétention d'un joueur, c'est devenu vraiment un truc vital. Là, tu mentionnais, pour le coup, les DLC. Au final, c'est ça, c'est de refaire venir les joueurs sans attendre qu'il y ait une vraie suite, pour avoir un entre-deux. Les microtransactions, j'en nomme plein à l'appel, mais pour avoir l'idée, on a les loot box, on va avoir, comment ça s'appelle, tout ce qui va être les achats in-app. Je pense notamment à tous les jeux freemium, forcément, il m'échappe un nom. Ouais, voilà, exactement.
Les gachas, t'as raison, hein. C'est encore, encore pire.
C'est ça, au final, on a tous ces systèmes-là qui font qu'on est là pour de la rétention. Les Fortnite avec ses saisons, pour le coup, où tu vas avoir ton skin que tu dois pas louper selon les saisons. T'as tout ce système-là économique qui est aussi arrivé pour financer un petit peu autrement. Les early access, qui vont être plus ou moins bien, selon plus ou moins bien fait, plus ou moins bien géré. Hades, c'était un super exemple, pour le coup, qui a été en early access pendant un an. Il y a un super documentaire de Noclip qui les suit. Ah, vas-y.
Baldur's Gate 3.
Bien sûr.
Baldur's Gate a eu plus d'un an d'early access, quoi. Donc, ça a terminé sur un très très beau résultat.
On va avoir le contre-exemple avec Palworld. On va pas s'engager sur cette piste, mais. Hein? C'est un exemple. En soi, c'est un exemple qui est intéressant, sans aller dans la polémique de l'IA, machin ou quoi. C'est que c'était quand même une petite équipe qui a utilisé les outils qu'ils ont utilisés, pour le coup, et qui a fait un carton, pour le coup. Là, pour le coup, 20 millions de joueurs sur un jeu comme ça. Tu disais, par exemple, tout à l'heure, 1 million de ventes pour un triple A. c'est à nuancer fortement. Là, vu la petite équipe qu'ils
avaient... eux, ils sont rincés, hein. Eux, même avec 1 million avec leur équipe et le temps de dev, ils étaient bien. Donc, à passer les 20, ils sont très, 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 très bien.
C'est ça. Et là, pour le coup, c'était vraiment... Ça donne l'image du... ça a été marketé d'une certaine manière. C'est tombé pile au moment où il fallait. Et go, 22 millions de personnes. Le fait est qu'il n'y a plus trop de temps qu'ils jouent en ce moment, j'ai l'impression. C'est un autre débat. Mais ça envoie... L'Early Access, c'est ça. C'est que ça peut permettre aussi de faire ça. Mais j'ai l'impression que cette question de rétention, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait tant, j'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas, il y a 20 ans peut-être, par exemple.
Ah bon, il y a 20 ans peut-être pas, non. Mais c'est une question de conscience, hein. C'est quelque chose qui est très vieux, hein. C'est qu'en fait, ça a commencé avec les GTA, et à l'époque, vous trouverez peut-être encore le terme sur les internets en fouillant, mais alors en mode archiviste, on parlait de Monster Game, pour parler de ces jeux super longs. Tu sais, ces jeux qui dépassaient les 50, 60, 70 heures de durée de vie. Et en réalité, si tu regardes les gros titres de ces dernières années, on parle des gars qui ont passé les 15, 20 millions. Dedans, tu vas avoir du Witcher, du Assassin, et t'as que des jeux qui passent cette durée de vie. Ça, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. En réalité, les gros open world extrêmement généreux qui débordent de contenu, c'était déjà inscrit dans cette idée de dire « notre bataille, c'est la bataille du temps ». Et le but du jeu est de garder le joueur le plus longtemps possible, et on veut éviter qu'il revende sa copie de jeu très rapidement, donc on veut qu'il la garde, donc on veut qu'il sache qu'il y a du contenu qui va arriver prochainement, on veut continuer à améliorer le jeu, écouter leurs retours, proposer une expérience qui sera fine au fur et à mesure, hein, t'sais. Et là, tous ceux que j'ai cités, hein, Witcher, Destiny, enfin peu importe, c'est exactement la même chose, ça a fonctionné pour eux. Donc du coup, c'est quelque chose de très ancré. Preuve en est, quand on interview à un moment donné, il y a peut-être 3 ans, les CEO de Netflix, et qu'on leur parle de Hulu et puis de Disney+, les gars disent, ben non, nos concurrents, c'est Microsoft, nos concurrents, c'est Sony. Pour eux, la bataille, c'est la bataille du temps, c'est pas celle du contenu ou du format.
Non, complètement. Puis la Netflix, je peux ajouter mon truc, j'y ai travaillé pour le coup, c'était le mot rétention qui revenait souvent. C'était à quel point ils pouvaient retenir l'attention comparé à d'autres médiums, pour le coup, en dehors de cinéma ou quoi. À quel point il peut retenir l'attention des personnes. Et le jeu, ouais, encore une fois, le jeu vidéo, c'est...
Ouais, de toute manière, cette logique de rétention, elle s'inscrit même dans les modèles actuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les modèles type, de service se développent. Alors, ça s'est développé avant dans le monde de la série, de la VOD, quoi. Mais aujourd'hui, on le voit également que ça se développe énormément dans le jeu vidéo, avec, bon, évidemment, le Game Pass, qui est qui est emblématique pour ça, mais de plus en plus également le cloud gaming, avec des technologies comme xCloud qui marchent très, très bien. Enfin, moi, personnellement, j'avoue que c'est un vrai confort dès que je suis en dehors de chez moi de pouvoir jouer depuis mon PC portable avec xCloud, dès que j'ai la fibre. Et pour le coup, au niveau des usages aussi, c'est intéressant, je pense, pour les éditeurs et constructeurs de pouvoir se détacher aussi du matériel physique. C'est-à-dire qu'un film, en fait, on n'a pas besoin d'une machine qui fait tourner quelque chose en temps réel. Le problème là actuellement du jeu vidéo, un problème entre guillemets pour si tu le prends du point de vue d'un produit, c'est qu'en plus il faut une machine pour arriver à le faire tourner, et si tu peux le faire à distance via le cloud, c'est vrai que ça t'ouvre aussi un marché qui est bien plus important, parce que pour le consommateur, si on prend vraiment le jeu vidéo comme un produit, c'est que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui coûte très très cher, parce qu'entre le prix de la console, évidemment le prix du jeu, mais même si aujourd'hui on considère que du point de vue de l'industrie il est pas cher, mais ça reste un budget, un jeu à 70-80 euros. Et donc au final on voit aussi que tous ces nouveaux modèles, au-delà des modèles in-game qui permettent de rapporter de l'argent, t'as aussi tous ces nouveaux modèles alternatifs qui se développent.
Non, complètement. Et on en a même pas parlé, mais t'as les games as a service aussi. C'est le meilleur moment avec Helldivers 2 qui est en train de cartonner dans le genre. Qui, pareil, je crois que leur budget, c'était peut-être 40 millions de dollars pour avoir vu passer hors marketing, je pense qu'ils sont bien, pareil, maintenant.
Ouais, mais là, c'est quasi, tu vois, on parlait de modèle de financement, donc on est encore sur autre chose, mais c'est la marotte actuelle de tous les CEO. Je sais plus qui avait fait une enquête de sondage, il me semblait que c'était Game Industry qui avait fait un sondage auprès des développeurs, et en gros, la façon dont ils avaient fait, c'est envoyer des tonnes de mails, et ils avaient demandé à tous les devs si, dans leur entreprise, at large, il y avait au moins un jeu Game as a Service en développement. Et je pense qu'on était au-delà des 90% de réponses positives, ce qui est logique, puisque tu peux pas trouver un éditeur qui en a pas actuellement. ou qui n'en cherchent pas, de EA avec ses simulations de sport, à, je vais mettre Ubi dedans aussi avec Rainbow Six Siege par exemple, tu peux rajouter Activision avec différents modes sur Call of ou sur même les MMO pour limite rentrer dedans, parce que oui, World of Warcraft ça arrête du Game as a Service, enfin bref, tu peux tous les prendre. Sony qui avait, vous vous rappelez, annoncé je sais même plus combien, 18 jeux en développement, donc là il y en a de juste Game as a Service, il y en a plusieurs qui ont sauté. Et rajoutons à ça la définition de Game as a Service qui est extrêmement large et qui est souvent réduite à un jeu de typologie Helldivers ou Destiny, où on se dit, c'est un shooter, en gros, c'est un shooter-looter, tu te balades, t'es en multijoueur, t'as un hub, et c'est un Game as a Service. Mais en réalité, d'un point de vue dev, un jeu comme Tekken, c'est un Game as a Service, hein. Un jeu comme Street Fighter est un game as a service qui te rajoute régulièrement des compétitions, des personnages, et il y a même beaucoup de jeux solo qui sont considérés comme des game as a service. Un Witcher le serait considéré tellement il a eu de contenu, de DLC, de patch, de suivi, de... Et finalement, c'est pas nécessairement le gros jeu qu'on voit débouler avec ses gros sabots à la Helldiver qui... Bah, pour le coup, lui, c'est l'incarnation parfaite du truc à réussir. Le jeu qui a pas trop coûté cher, qui a un énorme momentum, tout le monde saute dessus. Ça, c'est littéralement le rêve pour un éditeur, quoi. Enfin, pour les gens qui tiennent les cordons.
C'est là aussi où on voit les limites du modèle, hein. Là, parallèlement, on a l'explosion de la valorisation, c'est-à-dire de chaque société, etc. Et puis en plus, on est avec la fameuse grande migration où t'as plein de devs seniors vétérans post-Covid qui ont quitté toutes les grosses boîtes de AAA pour monter leur studio et qui ont trouvé très 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 facilement de l'argent. On en voit plein partout, donc l'explosion des valorisations dès que tu mettais un CV avec quatre personnes qui venaient de Ubi, EA, DICE, tout, tu levais 20, 30, 50, 100 millions avec un bout de papier concrètement. La fin de la stabilisation post-Covid, la nouvelle génération, les pricing et tout ça, et en même temps, tu peux pas avoir des games as a service qui marchent tous. Le temps de, je vais pas parler de temps de cerveau disponible, mais en tout cas le temps disponible des joueurs, tu peux pas faire 25, tu peux pas être joueur ou joueuse sur 25 games as a service en même temps.
Tellement.
Et donc là, il y a concrètement un problème structurel qui est lié en plus à l'explosion des coûts où ça n'est pas tenable sur la durée. Et on a vu récemment plein de, y compris des bons jeux type The Finals, on a vu aussi plein de jeux game as a service, shooter, etc. Qui sont vautrés. Et c'est là où on est vraiment dans la troisième grosse crise du jeu vidéo où il y a une inflation des coûts pour des bonnes raisons, des meilleurs salaires, et ça c'est bien parce que c'était... partout sur la planète, c'était un gros sujet. Moins de crunch, donc ça veut dire aussi plus de gens pour éviter que un plus petit nombre fasse plus de crunch précédemment. Donc des points positifs, mais aussi parallèlement à ça, tu as l'incertitude sur les financements liés au contexte global, l'Ukraine, Gaza, la Chine, les États-Unis, etc. L'augmentation du coût de l'argent. Aujourd'hui, emprunter, ça coûte plus cher qu'il y a un an ou il y a deux ans, etc. Donc du coup, les gens empruntent moins, donc les investisseurs mettent moins d'argent. Plus un truc qui est en train de se perdre globalement chez les éditeurs. Normalement, un éditeur, et c'est ce qui marche dans le cinéma, c'est ce qui marche dans la littérature ou autre, ou dans les comics ou dans les BD, c'est celui qui fait un pari et qui prend du risque. Et du coup, d'où la notion de portfolio. T'as ton portfolio, t'as un ou deux jeux risqués sur lesquels tu fais des paris artistiques, parce qu'on est entre l'entertainment, l'industrie et l'artistique aussi quand même dans le jeu vidéo. Tu fais des paris et à côté, tu fais 2, 3, 4, 5, 10 trucs en fonction de la taille de ton portfolio. Pour sécuriser tout ça, au cas où t'es un ou deux paris risqués, créatifs, artistiques, se vautrent. Mais il y a quasiment deux industries qui cohabitent en même temps. Une industrie, on va dire, financière, de distribution, et une industrie d'édition. Et ces deux industries qui cohabitent pour l'instant, l'industrie d'édition, elle n'est pas là pour faire des jeux... de distribution, elle n'est pas là pour faire des jeux qui marquent, qui restent, etc. Elle est là pour faire du flux. Ça s'appelle le flux en télé, et tu t'en fous. T'es là pour faire de la renta, de l'argent, etc. Et c'est un métier comme un autre, c'est pas forcément plus mal. Hein. Mais il y a des gens qui sont là pour faire de l'édition, et dans l'édition, ça veut dire du risque. Et le problème, c'est que, parallèlement à l'explosion des coûts, parallèlement à l'incertitude, il y a de moins en moins d'éditeurs qui prennent des risques.
Bah, ce que tu disais, effectivement, sur la place disponible, le temps de cerveau, comme on disait sur TF1, hein, des joueurs, notamment des joueurs Game as a Service, là où effectivement elle est violente. Il y a une expression que j'ai vue beaucoup dans les, chez les financiers aux États-Unis, qui parlait de Black Holes Game, en fait, de jeu trou noir, c'est-à-dire qui absorbait littéralement complètement, tu sais, les joueurs d'un point de vue ressources, c'est-à-dire temps disponible, argent. Et fatalement, bah, c'est un constat, ça, de toute façon, en joueur, on le fait tous à notre niveau. C'est si tu te lances dans un énorme jeu comme Helldivers et tu es comme un fou, les chances que t'aies le temps de te pogner derrière ton Dragon Dogma, ton Unicorn Overlord et tout ça, ça devient vraiment, vraiment, vraiment limité. Donc effectivement, c'est comment exister à travers ça. Et ça a été cyclique, parce que si on regarde les jeux vidéo, on a toujours fonctionné sur ce modèle. Hein. Un jeu de baston en 2D sort et commence à cartonner en arcade, tout le monde fait du jeu de baston 2D. Un jeu de baston 3D arrive, tout le monde en fait. Dota perce, tout le monde fait du Dota-like. Les MOBA, ça arrive, tout le monde en fait. Le compétitif multi ou les jeux shooters avec des filtres bruns, grande époque PS3, tout le monde en a fait. Donc en fait, tu sais, il y a vraiment des cycles qui se répètent. Là, la course à l'armement, effectivement, avec les Game as a Service, avec le coût qu'il y a derrière, c'est effectivement extrêmement casse-gueule et dangereux. Donc là, moi, je suis entièrement d'accord. Et sur l'aspect financier, il y a un autre truc que je viens de dire, en fait, en complément de tout ce qui a été dit et qui fait absolument du sens, avec lequel je suis d'accord, c'est que le modèle de financement global de l'économie dans les techs, il a changé ces 2-3 dernières années. C'est-à-dire que pré-pandémie, effectivement, il a quand même raison, le nombre de collègues que j'ai vu partir ou le nombre de potes que j'ai dans d'autres boîtes qui ont monté des structures, et effectivement, ils sont allés chercher des 100 millions, mais alors, pépouze, avec un objectif de 250 personnes en 3 ans, c'était comme le chiffre magique de tous les studios qui se montaient, puis je suis à Montréal, hein, donc les studios, on en voit popper tous les jours. Donc ça c'est parti très 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 fort, et on trouvait du financement un peu partout, et le truc qui se passait, c'est que, grosso merdo, et vraiment je fais le résumé à la truelle, hein, on était dans une économie qui favorisait la croissance. Donc plus tu montrais que t'étais en train de grandir, plus les investisseurs avaient tendance à lâcher du pognon, parce qu'ils voyaient le potentiel énorme qui allait se passer, et puis avec la méga croissance qu'on a eue artificielle pendant la pandémie, avec les explosions des chiffres du jeu vidéo, les gars sont partis avec des prévisionnels comme si ça allait durer toute la vie. Alors non seulement ça a freiné, mais en plus on s'est pris une récession dans la gueule. Donc c'est-à-dire il s'est passé mais pile l'inverse de ce qui était prévu. Et là en fait il y a eu un switch mais complet. Et c'est ce qui fait que la valorisation aujourd'hui de beaucoup de boîtes, elle est complètement débile, parce que le CAC 40 il explose des records. Les boîtes américaines ou les boîtes dans les techs, elles désintègrent tous leurs objectifs. Tu sais, on a vu hein, Microsoft qui bombe le torse et qui le lendemain t'annonce 1900 licenciements. Enfin tu sais. Le truc est que maintenant, le mot à la mode, c'est le mot « lean ». Des entreprises efficaces, des entreprises dans lesquelles on dégraisse, des entreprises... Et donc, en fait, au lieu de chercher la croissance à tout prix, maintenant, on cherche le revenu et le résultat à tout prix. Et la façon de montrer qu'on est prêt à jouer le jeu de manière assez radicale, c'est très souvent de s'en prendre au capital humain et dire « bon, ben voilà ». Sauf que, in fine, hein, quand tu connais la réalité des techs, tu sais que ce qui fait que on progresse, c'est énormément d'investissement, de R&D, de capacité à innover. Et quand justement tu freines tout ça pour essayer de te focaliser sur le plus rentable possible, tu sais très bien que c'est pas un modèle que t'es capable de tenir, parce que même pour être capable de délivrer au final des expériences AAA par exemple, bah, il va te falloir énormément de monde. Tu peux pas les faire avec peu de personnes, ça ne fonctionne pas. Ou alors, si c'est pour aller chercher des ressources externes, en fait, tu déplaces le problème et tu déplaces les coûts. Mais, globalement, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça, beaucoup de personnes, tu sais, souvent me disaient, mais comment ça se fait que des boîtes qui font autant d'argent que Microsoft, Google, qui font des bénéfices à milliards, licencient. Putain, on va dire, en fait, c'est pas que ça n'a rien à voir, c'est que leur objectif est de montrer qu'ils vont être le plus efficace possible dans leur gestion, avec le moins de monde possible, pour faire le plus d'argent possible, et c'est ce que les investisseurs veulent entendre. Donc leur façon de lever des capitaux, c'est de faire ça. Là où avant, leur façon de lever des capitaux, c'était d'acheter des studios absolument magnifiques toutes les 2 semaines, de pas arrêter d'augmenter de taille, et de montrer qu'on était capable de grandir. Donc c'est vrai que ce changement, il fait vraiment mal, et je suis aussi complètement d'accord sur le constat de on est en train de se prendre une bonne crisounette dans la face, même si globalement, hein, et on le voit, les chiffres continuent de bien aller sur le marché en lui-même, c'est beaucoup plus sur les conditions, sur ce qui se passe, sur les emplois, sur la manière dont ils sont détruits, sur les changements de paradigme avec le travail de partout, le fameux work from anywhere qui est arrivé dans l'industrie du JV, ben, l'air de rien, la compétition elle est aussi monstrueuse. Essaye de discuter avec un dev qui essaye de se replacer aujourd'hui, il va être en concurrence non pas avec seulement les devs dans une zone géographique proche, mais avec les devs du monde entier qui vont accepter de travailler à distance. Donc, tu as des mecs avec des expériences et des CV de feu. Donc, en ce moment, ça, tout ça rend le marché extrêmement complexe, quoi.
Ouais, mais parce que fondamentalement, il y a quelque chose qui a quand même changé dû à l'explosion Covid, la survalorisation, ou qui s'est accélérée, c'est la financiarisation.
Ouais. Ouais, ouais, complètement.
Aujourd'hui, on est dans un secteur 15. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une balance entre comment tu finances ou comment tu gagnes et tu génères des revenus sur ton jeu. T'avais une balance entre les first parties, les générations de consoles qui donnaient de l'argent, les différents systèmes de mécanismes de financement dans les principaux pays qui créaient du jeu vidéo. C'est-à-dire Canada, France, Allemagne, UK, etc. Les revenus générés par les loueurs, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la majorité du financement, à part dans quelques pays type la France avec les systèmes de mécanismes de financement ou autre, ou Canada, et encore Canada, ils viennent de faire des annonces pour baisser.
Baisser le crédit d'impôt.
Maintenant, la majorité des financements, en fait, c'est purement des financiers. Mm-hmm. Et ils sont là pour... c'est des financiers, donc c'est leur métier. Ils sont là pour toute autre chose. Et là, il y a un vrai risque de comme un peu a connu le cinéma fin des années 90, début 2000, où tu as eu un premier essor des films de super-héros, Marvel, Dark Horse, etc. Et puis qui sont relativement vite vautrés. Et c'est pas revenu avant quasiment 20 ans ou 15 ans après. Avec des gros crashs comme L'Homme Invisible de Verhoeven ou des trucs. Pourtant,
et quasi une faillite au milieu, ouais.
Voilà, des
gros trucs. Ouais, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, machin, il y a eu plein d'adaptations de comics qui ont planté, ouais.
Et il a fallu attendre une quinzaine d'années avant que ça revienne. Et là, on voit déjà que ça se réessouffle, pareil, sur les films Marvel et tout ça. Et on voit, alors ça, c'est le point positif, et surtout pour toi, Aymar, du coup, le levier de croissance à mi-chemin des deux, et pour le jeu vidéo, et justement des nouvelles IP, des nouveaux mondes, des nouveaux univers, c'est que moi, je suis à peu près persuadé, dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est plus les films Marvel qu'on voit partout, mais c'est des IP de jeux vidéo. Ouais. Qu'on verra partout, en salle, en cinéma, en série télé, etc. Mais là, on voit que, par exemple, tout ce qui est super-héros, ça commence à descendre dans le cinéma. Et le deuxième levier de croissance, pour dire des trucs positifs, c'est un vrai marché global aujourd'hui. Jusqu'à il y a, on va dire, 5-6 ans, les revenus générés dans le jeu vidéo, alors jusqu'à il y a 10 ans, c'était hors Chine, et c'était essentiellement États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest qui généraient du revenu dans le jeu vidéo. Ensuite, t'as l'explosion de la Chine, et puis la Corée, et puis évidemment le Japon qui était là depuis longtemps. Là, maintenant, c'est un vrai marché global. Il y a des jeux qui cartonnent et qui font 1 million, 2 millions d'unités vendues juste au Brésil. Ils ne marchent pas trop ailleurs, mais ils marchent au Brésil. Et ainsi de suite. Et donc, on est dans un vrai marché global, et ça explique aussi qu'il y a des besoins et des demandes de monde, d'univers, de DA, de ton, d'histoire, qui sont plus que occidentalo-centrés. Donc ça, c'est, on va dire, la porte ouverte sur le futur positif qui, j'espère, pourra nous aider à sortir de la financiarisation. Mais sinon, parce que la financiarisation a besoin d'être sûre pour investir, donc le meilleur moyen d'être sûr, c'est de tout valider par la data. Donc, de ne pas être juste data aware, comme on dit, mais d'être vraiment data driven. Et si tu pousses la logique de la data jusqu'au bout, le seul jeu que tu fais, c'est Mario Kart, parce que c'est la meilleure licence qui est stable, qui génère des revenus prédictibles, etc. Même FIFA a eu des hiccups, même Call of Duty a eu des hiccups, etc. Et c'est une harmonisation, mais par le bas, pas au sens qualité de Mario Kart, mais au sens de tout le monde va finir par faire la même chose. Et on le voit déjà un peu sur les games as a service.
Ouais. Mais c'est pareil pour les films, tu vois, du coup. Je te rejoins, tu vois, la raison pour laquelle aussi les films de super-héros galèrent, et puis j'en ai fait des discours chez des gens aussi à Hollywood en ce sens sur les licences de jeux vidéo, parce qu'on savait, enfin on sait qu'ils regardaient très fort, puis là, il suffit de regarder, tu sais, le nombre d'annonces à la semaine, que ce soit animation, série télé, film, tiré d'univers de jeux vidéo, mais t'en as, mais dans tous les sens, sur des trucs que t'attends même pas, des films Borderlands, des tu sais, il y a vraiment des trucs de partout. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y avait comme, enfin, c'est le propre à Hollywood. Eux aussi essayent de limiter le risque. Et t'as quasi l'impression, franchement, on rigole, mais que les scénars des Marvel de ces 10 dernières années, c'est une IA qui les écrit, quoi. Tellement tout est prévisible à la minute près, tellement tu sais exactement comment les scènes elles vont tomber, tellement que c'est drivé par du VFX. Et puis la plupart du temps, ils savent pas ce qu'ils font pendant le film, ils décident en post-prod. C'est des situations complexes, et le parallèle dans le jeu vidéo, il est un peu effrayant, parce qu'effectivement, tu te retrouves avec des salves de jeux sans saveur que les gens oublient quand même relativement vite, quoi. J'ai vu plein de gens qui me disaient, mais Capcom, mais quel éditeur de feu en ce moment? Et tu sais, on te citait les trois derniers gros succès, tu vois, on parlait de Monster Hunter, on parlait de Resident Evil, ils étaient là, Mais putain, leur truc de dinosaure gaz, là, qui a complètement explosé. Ah ouais, celui-là, je l'avais oublié. Non, mais Sony, les GOAT et tout, machin, tu fais, bah, leur truc de bagnole, tu sais, de All-Star, machin, là, qui est sorti au début de la console. Ah oui, c'est vrai, celui-là, je l'avais oublié. Puis, je peux parler pour nous, hein, on a eu HyperQuest, enfin, il y avait tout le monde. On a tous eu des Game as a Service qui ont pas fonctionné.
Token, alors, qui est pas un Game as a Service, mais Forspoken pour Square Enix, ils ont vécu deux années un peu compliquées, là, quand même.
Ah bah oui, t'as raison. Bah ouais. Et... Tu sais, tu prends des keys quand même régulièrement, et c'est, ça a toujours été ça, le JV. Seulement, le problème, c'est que d'ordinaire, normalement, derrière, tu compenses avec des méga-titres qui fonctionnent. Et là, en fait, l'écart et les coûts sont devenus tellement monstrueux que quand un Forspoken se plante, mais que le budget, il est aussi autour des 200 millions, pour rattraper derrière, ça veut dire que ton jeu suivant, là, il a quasiment, allez, on va dire 160 millions de burden sur le dos. Plus son coût à lui, et il est censé essayer de le faire, parce que c'est comme ça que fonctionnent les éditeurs, hein, c'est pas Forspoken à rater, c'est pas grave, bah non, tu te le traînes dans le fiscal, hein, ça va être assez difficile. Donc là, c'est vrai que la pression, elle devient assez monstrueuse sur les gros titres, et les objectifs sont assez démentiels. Et du coup, vous parliez tout à l'heure de Final Fantasy VII Rebirth, qui pour moi est un des trucs les plus fascinants que j'ai pu voir ces dernières années dans le jeu vidéo, en termes d'approche, tu vois, je sais pas ce que ça va donner, vraiment, je veux attendre que le jeu soit fini depuis plusieurs années, et c'est pas qu'on n'a pas accès à des datas, on voit pas ce qui se passe, etc., mais j'ai jamais vu personne essayer de s'attaquer à un titre qui était aussi légendaire, qui est un titre qui est aussi iconique, qui part avec une telle cote de popularité auprès des joueurs, et qui en même temps parle très peu aux nouvelles générations, et ça c'est un classique qu'on a tendance à oublier, mais qui veut tellement rien dire, même la marque en soi, FF, t'as envie de dire, les gars, quand nous les vieux, on se met autour de la table, on va se disputer pour savoir si FF10 ou FF12 était le dernier bon FF, quoi. Mais en gros, ça va se faire comme ça, et ça fait un paquet de temps. Ça veut dire qu'on parle de la PlayStation 2, hein, on est déjà dans le rétro gaming, donc ça veut dire que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, la licence FF, elle a pas du tout le poids qu'elle a eu pour nous, elle a pas eu l'impact qu'elle a eu pour nous, et on le voit. FF7 Remake, la première partie, qui est quand même assez blindée de défauts, c'est un jeu qui, au final, sur plus de 3 ans, en comptant les versions PS4, PS5, PC, Intergrade, donc les versions qui intègrent tous les DLC et tout, termine à 7 millions tout confondu. Ce qui est correct, franchement correct, mais il y a l'air d'avoir du budget, hein, on va pas se le cacher, FF7, à mon avis, on est dans le lourd du AAA, mais ce qui est pas dinguissime, si vous comparez ne serait-ce que à des jeux qui sont pas des remakes, qui vont chercher les 15-20 millions, voire plus, tu dis, bon, 7, on n'est pas non plus sur un truc de dingue. Resident Evil 2, c'était quand même plus de 12 millions. Donc FF7 Remake, on n'est pas sur un truc ahurissant. Et Rebirth t'oblige à avoir fait remake avant. On est vraiment sur un cas d'une trilogie dans lequel tu peux même pas zapper. C'est-à-dire que si tu connais pas du tout FF7 et que t'as pas fait remake, mais surtout, ne te lance jamais dans Rebirth, quoi. C'est ce que le producteur lui-même du jeu te dit. Là-dessus, il y a un positionnement très spécial de Square Enix qui te les vend pas comme partie 1, partie 2, mais qui a l'air de faire comme si c'était des jeux indépendants, bien que les équipes et tout le monde te disent « Bah non, c'est pas du tout indépendant, hein, ils sont complètement interconnectés, il y a plus d'indépendance dans la trilogie Mass Effect qu'il n'y en a dans ces deux titres-là pour l'instant, tellement l'un et l'autre sont intrinsèquement liés. » Le choix de sortir Rebirth uniquement sur PS5, et pas PS4, ça complexifie pas mal le bordel et ça risque de limiter le potentiel, sans compter les personnes qui ont joué à Remake et qui potentiellement ont été déçues, parce que en termes de... Il y a plein de trucs en termes de réalisation, un système de combat, visuel, musique, qui sont exceptionnels, donc t'as l'impression d'avoir la trilogie parfaite pour sortir un bon jeu, mais le rythme, l'histoire, la narration, tu sais, ça avance pas, ça tire en long pendant 30 heures. Je rappelle que la durée du Remake, qui finalement est un prélude, c'est l'intégralité de FF7, quoi. T'as le temps de finir FF7 en faisant simplement l'introduction. Donc autant dire que t'en scènes des gencives quand t'en sors. Rebirth, t'en parlais derrière, Monster Game avec une centaine d'heures derrière. Tu dis, ok, on va terminer le prochain, il va nous faire la même. On va se retrouver avec un jeu qui fait 240 heures, en 3 parties, à 3x70€, sorti sur des consoles parfois de générations différentes, nécessitant d'avoir fait les uns les autres. À la fois, il te les nécessite de les faire, mais en même temps, c'est pas lié. C'est-à-dire, tu reprends ta sauvegarde, bah ça y change rien, en fait on s'en fout, on va te donner une invocation bonus, mais c'est comme si ça n'existait pas. Tu sais, il y a une série de choix qui sont, à date pour moi, pas super clairs et pas très compréhensibles. D'un point de vue stratégique, je trouve ça un peu spécial, et du coup, Je suis très curieux de voir comment ça va se passer, parce que j'ai aussi l'impression, et j'ai aussi vu beaucoup de joueurs se retenir et dire « Non, non, moi j'attends que l'intégralité soit sortie, parce que je veux faire le jeu d'une traite, je ferai le jeu d'un coup. » Et donc du coup, je suis très curieux de la dynamique sur les ventes de celui-ci, qui n'ont pas forcément l'air de partir très fort, mais ça s'explique hein, avec tout ce qu'on a dit. Je suis très curieux de voir le dernier, et comment ensuite ils vont vendre le tout en bundle, comment est-ce que ça va se présenter, et les performances de ce dernier. Parce que je pense que là, elles sont pas non plus à sous-estimer, mais ça m'a l'air excessivement coûteux, tout ça. Trois parties de jeu en 4 ans, avec des équipes monstrueuses de plus de 1000 personnes, on est quand même sur du... On est sur du gros budget, là. Je pense que pour amortir, là, ça va être très, très compliqué pour Square Enix. Et effectivement, la question à se poser est, est-ce que c'est pas un jeu vanité? Est-ce que c'est pas le, stratégiquement, c'est pas le truc le plus fou qu'ils auraient pu faire, sachant qu'ils arrivent à très bien performer sur d'autres titres, hein, Square Enix.
Mais c'est là où le modèle économique marche pas. Hein. Il y a un truc qui va devoir changer. Je sais pas dans quel sens, j'espère dans un sens positif, mais comme tu disais, entre les joueurs qui disparaissent, c'est-à-dire que qui ont un jeu sur leur libraire Steam, c'est CS:GO. Ils n'ont jamais acheté aucun autre jeu, ça fait 20 ans qu'ils y jouent. Voilà, ceux-là, on les a perdus, on les verra plus. Et puis, t'as ceux sur GTA, t'as ceux sur R6, Rainbow Six Siege, et ainsi de suite. Donc, c'est très bien et c'est très cool, surtout pour avoir beaucoup bossé sur R6, je suis très content. Mais c'est là où, du coup, toutes les propositions AAA hyper chères qui ont un besoin de rentabilité se heurtent à leur propre autoconcurrence, parce que c'est souvent les mêmes éditeurs. Si on prend pour Ubi, à un moment donné, quand tu sors plusieurs FPS coop Clancy la même année, à un moment donné les joueurs ils vont pas y jouer à tous.
Ouais, tu te cannibalises. Donc c'est clair.
Tu te cannibalises, exactement. Le point positif, c'est que par contre, si je reprends juste les premiers mois de l'année, alors c'est pas du tout les mêmes économies, pas les mêmes échelles, mais Unshrouded, Helldivers, Palworld si on veut, et ainsi de suite. Il y a ou dans les dernières années Disco Elysium ou Last Epoch encore récemment, il y a quand même. Et c'est là où c'est positif, c'est que les joueuses et les joueurs, certes, c'est installé, mais ils ont quand même toujours envie de nouveauté et par nouveauté d'innovation. Et donc il y a toujours des articles qui disent le succès surprise de Helldivers, Disco Elysium, tout ce qu'on veut. Non, c'est pas un succès surprise, c'est normal. Tu passes pas ta vie à aller voir le même film Marvel au cinéma tout le temps. Tu vas te faire un film Marvel et puis après tu vas te faire je sais pas une comédie avec Danny Boone et après tu vas te faire un truc Arte et ainsi de suite.
Le combo de l'été, Barbie, Oppenheimer. c'est le ça. Cinéma américain pris de court, quoi. C'est... Attends, un film complètement ouf sur Barbie et un autre
et
intense
chute.
Sur Oppenheimer. Et voilà, et Anatomie d'une chute. Tu te dis, en termes d'entrée, les gars ont trusté le box-office devant les Marvel, les Madame Web, les machins et tous les. Donc tu te dis, c'est quand même. Mais il y a toujours eu cette appétence des joueurs. On l'a vu sur Baldur's Gate. On l'a vu sur. Il y a pas mal de jeux qui ont tendance à faire ces espèces de surprises, mais effectivement, là où c'est difficile pour beaucoup d'éditeurs, c'est comprendre comment bien produire. Et bien produire, c'est pas produire que des triple A. Mais c'est pas évident parce que le positionnement, quand tu fais un double A ou un jeu. Par exemple, sur Ubi, pour rester sur le truc, Assassin's Mirage, qui a été vendu moins cher qu'un jeu ordinaire parce que la production et le scope étaient plus réduits, alors qu'on parle quand même d'un jeu de qualité d'une trentaine d'heures, tu sais, c'était quand même il y a eu du contenu, hein, mais qui a été positionné différemment parce que c'est pas le méga assassin à la Valhalla. Et ça s'est très bien passé pour le jeu, il a été, tu sais, il s'est retrouvé dans les tops des ventes, il a bien performé, il a reçu des awards, on est très content pour lui. Donc il y a d'autres façons de faire et il y a des façons de prendre des risques. Les joueurs sont heureusement, effectivement, il y a encore une curiosité, mais c'est vrai que c'est t'as raison quand tu dis il y a des joueurs, on les a perdus, c'est très difficile. Un joueur qui est engagé dans un game as a service de manière intense ou dans un GTA Online sur son serveur RP, pour l'arracher du truc et lui faire essayer autre chose, faut un nouveau GTA quoi, sinon ça devient très 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 compliqué quoi. Donc, du coup, c'est vrai que la base de joueurs globale. Elle reste quand même limitée. Les gens qui vont être susceptibles d'acheter ton truc, ils sont pas à l'infini. Quoi.
Heureusement, elle s'étend d'abord générationnellement. C'est-à-dire que quand les années 90-2000, c'était essentiellement, c'était majoritairement des mecs dans les pays occidentaux qui jouaient. Là, aujourd'hui, tu as des gens partout sur la planète qui jouent. Alors du coup, il y a une question de, encore une fois, de la renta du pricing. C'est-à-dire que quand tu es en Turquie ou quand tu es en Argentine, tu ne peux pas payer 70 euros de toute façon. Donc voilà, mais par contre, il y a des millions et des millions et des millions, des dizaines de millions de joueurs et joueuses partout sur la planète qui se mettent au jeu vidéo, découvrent Ludo. Donc il y a le côté horizontal, plein de nouveaux pays, avec en plus une amélioration des accès à Internet. T'as la 5G qui arrive en Afrique. Donc c'est quand même 1,4 milliard de joueuses et joueurs potentiels qui ont moins de 30 ans. Qui vont arriver, donc 1,4 milliard, ça peut faire, même s'ils n'ont pas le même pouvoir d'achat pour une partie d'entre eux, 1,4 milliard, ça fait une belle arrivée de nouveaux joueurs quand même. Et puis générationnel, parce que c'est pas un média qui disparaît. Il y a des gens de 70 ans qui ont commencé peut-être dans les 70, 80, les premiers jeux vidéo et qui continuent à jouer aux jeux vidéo.
Ce que tu dis là, pour le coup, c'est intéressant, mais c'est parce qu'en fait, on assiste, c'est plus la mutation du marché et son évolution, en fait, parce que on parlait déjà, il y a une dizaine d'années, des pays BRIC, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, comme les nouveaux marchés potentiels de tout ce qui est entertainment. C'est le cas, hein, ça se vérifie et dans le comics, et dans le cinéma, et dans le jeu vidéo, mais effectivement, c'est une autre structure de marché. Quand tu le dis, t'as raison, quand tu dis en Afrique, la 5G arrive et machin, ouais, tu peux te balader partout en Afrique, tu vas voir qu'ils ont des téléphones portables avec la 4G, alors que t'as pas forcément l'électricité dans le coin, t'as pas forcément l'eau courante, mais par contre t'as tes jeux mobiles, et en fait c'est ça qui a, et quand on regarde toutes les courbes de croissance, c'est ce qui a représenté la plus grosse évolution et le plus gros changement. Tout à l'heure tu parlais, je viens de plafond de verre dans les consoles, et c'est exactement ça. On a une espèce de plafond qui est extrêmement difficile à dépasser en console, qui va être entre 120 et 150 millions d'une console type sur un marché. Donc on va dire qu'on est à peu près à 200 millions de joueurs consoles si on fait des tirs croisés, on va dire là encore ça va être avec les grosses pincettes, mais on a à peu près ce marché là qui finalement change pas énormément des années 90 à 2000 à 2010 à 2020, parce que on a des translations de génération de joueurs, mais les jeunes joueurs, et pour en avoir deux aussi à la maison, ils sont essentiellement sur d'autres types de jeux. Ils sont sur du Roblox, ils sont sur du Minecraft, et Roblox de manière massive, hein. Ils sont sur du Minecraft, là aussi, de manière massive, et ils sont totalement plateforme agnostique, quoi. Tu les vois passer de leur PC à une tablette, d'une tablette à un truc, sur leur même compte, sur le même jeu, et c'est pas du tout le cœur de cible actuel ou nécessairement celui que tous les éditeurs ont en tête, mais c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'éditeurs migrent vers le système Game as a Service et proposent de plus en plus ce genre d'expérience ou d'expérience dans le cloud qui sont pas dépendants des consoles et autres, parce que ils ont aussi bien vu la nouvelle génération arriver, puis c'est une génération qui est complètement numérique et qui n'a pas l'habitude de payer. Pour qui c'est pas normal de payer pour de la musique, on paye pas pour des vidéos, on paye pour rien, donc on paye pas pour des jeux, donc le modèle free-to-play du mobile ou le modèle à la Roblox avec des cartes d'achat et autres, est le modèle qui pour eux est prédominant dans leurs habitudes de consommation. On peut carrément parler du cas Fortnite. C'est disponible partout, sur toutes les plateformes, en même temps, c'est le plus populaire auprès de cette démographie, et autrement, tu vas retrouver la triptyque classique, hein, ton Call of plus ton FIFA, et rajoute un jeu AAA pour Noël dans l'année, et c'est à peu près la limite de consommation que t'as de manière très standard sur le consommateur moyen, pas sur le gamer engagé qui se farcit des podcasts d'une heure et demie de qualité et qui connaît les jeux indépendants et qui connaît les bons jeux.
Ce que tu viens de dire, c'est les top 10 de chaque année au final, tu vois. Les Call of, les FIFA, etc. Et le Fortnite qui apparaîtra pas. Et j'ai l'impression que le Fortnite, moi pendant longtemps, j'arrivais pas à comprendre le truc, en dehors du fait que c'est pas un genre de jeu qui me plaît, mais c'est que c'est tellement social en fait comme jeu. Quand je voyais mon neveu y jouer, c'est juste qu'il se retrouve. Enfin, nous on avait MSN à l'époque, mais c'est. Juste, il se retrouve là-dessus, et comme tu dis, il commence sur le téléphone dans le bus pour rentrer à la maison, tu switches sur la console, sur la télé...
Ils ont qui à la PC, exactement.
Etc. Et les achats in-app sont moins chers, tu vois, mine de rien. C'est que là, t'es pas sur un truc à 70 balles à acheter, t'es sur un skin qui va te coûter moins de 10 balles. C'est moins choquant, du coup, à acheter aussi, mine de rien. C'est juste du temps, moi, à comprendre.
Ce qui va être intéressant de regarder, c'est si ces générations Switch, comme les générations précédentes l'ont fait, c'est-à-dire que quand elles ont... qu'elles y jouent de 8 à 15 ou 16, 17 ans, 18 ans, quand elles ont leur premier salaire, leur premier revenu, post-études, 20 ans, 25 ans, est-ce qu'elles restent sur Fortnite, Roblox ou pas? Et pour l'instant, personne ne sait. Mais du coup, si on met toutes nos billes sur ce panier-là et que ils grandissent, ils ont leur premier salaire, etc., ils passent à
autre chose.
Du coup, c'est toute l'industrie qui aura fait des paris un peu foireux.
Non, c'est clair, mais c'est pour ça que, en fait, tu sais, je pense que quand tu observes depuis longtemps les marchés du divertissement, tu te rends compte que les marchés s'autorégulent. C'est-à-dire qu'à chaque crise et chaque crash, survient une renaissance, une nouvelle vague, un nouvel élan. Et en fait, chaque fois que tu vas avoir un gars qui va nous dire que les jeux single, c'est mort, dans les 4-5 années qui suivent, on va lui prouver qu'il a tort 15 fois de suite, tu vois. Et là, tu vas dire, ah, ben non, peut-être pas. Tu vois, un jeu à la Baldur's Gate, alors c'est rigolo parce que, voilà, plein de gens disent, oh, mais quel succès surprise! Tu vas dire, bah, tu t'es pas farci les deux premiers Divinity, toi. Parce que quand tu les as fait et que tu vois que les deux ont claqué des 90 plus Metacritic, enfin, toute la formule était là, le truc était génial, t'avais un an où t'avais pu tester ce qu'ils allaient faire avec la formule Baldur's Gate, on voyait bien le missile qui était en train d'arriver. Le succès sur PC, il est pas surprise, ailleurs, il l'est plus, mais sur PC, faut s'attendre réellement à ce genre de choses, et ça se reproduit quand même assez régulièrement. Palworld a été un pari assez drôle, parce qu'au final, les gars l'ont joué, et c'est vrai que ça, c'est un truc, je le dis très sincèrement, que je vois plus beaucoup chez les éditeurs, et vous pouvez le constater, en fait, même dans les présentations, dans les différentes présentations qu'on a, etc. L'aspect fun, le fait de faire un jeu pour le plaisir, qui est là juste pour donner du plaisir aux gens, c'est de plus en plus rare. On est tout de suite en train d'optimiser les courbes de rétention, le onboarding, la façon de... Mais t'as de moins en moins de trucs de « Ok, non, mais c'est ok, c'est Mongol, on est là en train de jouer avec des Pokémon qui ont des guns, mais ça va être un survival, ça va être rigolo. » Et finalement, ils font une espèce de mix. Tu vois, c'est... Au Québec, il y a un mec qui a eu l'idée de faire... J'ai toujours pas goûté, hein, ça fait 15 ans que je suis là. La pizza Getty. Donc, une pizza avec des spaghettis dessus. Tu vois, le mec s'est dit « Les deux, ça marche bien, j'aime, c'est italien, on se lance, on fait un truc. » Donc, en termes de dev, ici, il y a un terme face à ce genre de jeu qui est Pizza Getty. Tu vois. C'est le gars, il a toutes les idées qui sont passées, il a shooté, il est allé dedans. Mais parfois, ça marche. Tu tombes sur des gars à qui ça fait plaisir, le jeu est rigolo, il arrive au bon moment. Ils ont même eux-mêmes dit qu'ils n'avaient pas l'intention, tu sais, de faire un suivi post-launch complètement débile sur 15 ans, avec parce qu'ils ont été pris de court par le succès. Maintenant, ils peuvent tout à fait se revirer de bord et rajouter plein de trucs ou partir sur autre chose. Tu vois, ça aurait été une belle expérience. Et les gens qui l'ont fait, bah, te disent justement avec fierté, bah, tu vois, j'ai pas payé très cher, je me suis vraiment amusé dessus. Moi, c'est ce que j'attendais comme jeu. Bon, bah, fine, tu vois, ça laisse la place à d'autres choses, quoi.
Justement, sur les modes de consommation, il y a un truc qui est quand même aussi qui est entré dans l'équation et qui est un peu. On sait pas encore trop ce que ça va donner, mais jusqu'à présent, toute la fameuse balance entre le poids des financiers, le poids des first parties, etc., pour finalement arriver à continuer à faire émerger des nouveaux talents, des nouveaux studios, des nouveaux jeux, etc., à avoir un flux régulier avec des triple A qui restent, plus le backlog des CSGO, GTA, FIFA, Call of Duty qui restent, c'était balancé justement entre first party, les choix d'achat des joueurs et tout. Aujourd'hui, avec la souscription, avec Game Pass et tout, est-ce qu'il y a une perte de valeur de la perception, comme il y a pu en avoir une sur la musique avec Spotify et Deezer? Du coup, j'achète plus de disques, la valeur, elle se fait ailleurs, elle se fait éventuellement dans les concerts ou dans les produits dérivés ou autres. Mais l'impact du Game Pass sur la perte de valeur, et finalement, je papillonne. Bah, j'ai mon truc, je paye mon abonnement, etc., et puis je papillonne. Et c'est là aussi, il y a un truc de modèle qui va pas marcher, c'est-à-dire que il faut hooker les gens suffisamment pour qu'ils restent sur un Game Pass sur ton jeu et qu'ils n'aillent pas papillonner sur tous les autres jeux gratos qu'ils ont, ou l'impression de les avoir gratos. Il faut que ton jeu soit complètement unique, innovant, différenciant, etc. Sinon, t'es dans le backlog des 5000 jeux sur Game Pass ou les jeux gratos sur Epic, etc. Donc tu crées pas d'engagement pour les joueurs, on en revient au même truc.
Non, ouais. Non, ça c'est vrai que alors il y a un mélange, il y a la destruction de valeur effectivement qui celle-là on est entre la cause et l'effet en fait. C'est-à-dire que il y a quand même une génération pour qui déjà un jeu était, tu dis 70€, ils te font non, c'est déjà trop cher. T'as envie de dire bah merde, on est déjà pas au bon prix si c'est déjà trop cher, ça part mal. Et le Game Pass y apporte une réponse, mais effectivement ça contribue à l'accélération de la vision que on n'a pas à payer un jeu très cher, il y aurait pas raison de le faire. Maintenant, le problème aussi, et là c'est il est beaucoup plus lourd qu'au cinéma, mais je retrouve beaucoup ce que je vois par contre dans l'industrie du livre, c'est qu'on est dans un marché atomisé. L'année dernière, on l'avait dit, entre janvier 2023 et décembre 2023, 14 000 sorties sur Steam. C'est-à-dire que 1200 sorties quasiment par mois, évidemment que le marché il tient pas, quoi.
Ouais, ça faut faire gaffe, hein. Et pour le coup, il y a Simon Carles qui est qui est un analyste data, qui fait des analyses data et qui est prédictif même de quels jeux vont cartonner, etc., et qui se plante relativement rarement, et Chris Zukowski, qui est un spécialiste du marketing, et les deux, ils sont associés pour dire, bon, bah, le fameux 14 000 jeux qui sort, concrètement, on va analyser c'est quoi comme type de jeu, etc.
Ah bah oui, il y en a 10 000 qui n'existent même pas, c'est des auto-édités ou quasiment du...
Non, c'est même pas des vrais jeux, en fait. Des vrais jeux au sens, t'as plein de jeux, c'est des devs, c'est même pas des devs, c'est des gens tout seuls. Comme tu peux faire mettre ton jeu tout seul sur Steam, t'as des gens tout seuls dans leur coin qui font leur truc et qui cherchent à apprendre comment. Et ça, t'en as des milliers et des milliers. Mais ils ont aucune vocation commerciale, ils s'en foutent, ils font même pas de pub, personne. Il y a zéro joueur, pour eux, c'est juste un outil d'apprentissage, comme tu peux apprendre Unreal ou Unity ou à coder ou faire plein d'autres trucs gratos. Donc ça a zéro vocation commerciale. Après, t'as tous les jeux d'école. Donc chaque année, et toutes les écoles de jeux vidéo partout dans le monde, bah, mine de rien, ça fait quand même quelques milliers de jeux aussi. Et donc au final, ils ont analysé depuis 2011 le fameux 14 000 jeux, et sur le nombre de jeux à vocation commerciale, c'est-à-dire qu'ils sont un studio établi qui est là pour, avec un prix qui est là pour vendre, au final, il y a assez peu d'augmentation.
Ouais, mais tu vois, ça, donc, c'est encore une fois, c'est exactement la raison pour laquelle c'est proche du monde du livre. Avec le système d'auto-édition qui a été lancé, qui te permet toi-même de te lancer sur Amazon ou sur des stores, le problème, c'est que ça nuit quand même au moteur de recherche, à la lisibilité et à la visibilité pour les joueurs, parce que ça crée de l'encombrement. Et les petits indies vont te dire qu'ils vont pleurer pour avoir de la visibilité, pour exister, et eux, on peut avoir une vocation commerciale pour le coup, et pour lesquels c'est excessivement compliqué. Et au-delà de ça, si tu regardes le nombre de triple A sorti avec perte et fracas ces 6 derniers mois, on est quand même dans des années assez intenses. On a toujours eu, tu vois, des périodes qui étaient relativement costauds dans le jeu vidéo. Mais là, force est de constater que sur 6 mois, en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de trucs qui sont liés aux différents reports qu'on a eu début Covid. Ouais. Vous vous rappelez, tout le monde, allez, on reporte. Et en fait, tous maintenant sortent en même temps et se marchent sur la gueule les uns des autres. Et là, il y a la conséquence en général directe sur un marché qui est que, il va y avoir de la destruction. C'est-à-dire, tu vas avoir, après avoir des emplois qui disparaissent, tu vas avoir des studios entiers qui n'arrivent plus à trouver de financement. On a commencé à en voir, des studios indépendants qui disent, nous, on n'est plus capable de lever les fonds nécessaires, on doit mettre en pause, on doit complètement arrêter la production. Et c'est un peu horrible, mais c'est aussi ce qui va aider à aérer le marché et à rendre la situation plus saine pour ceux qui arrivent à sortir, parce que tu vas d'un coup pouvoir t'adresser à plus de personnes potentiellement, parce qu'on ne va pas être 45 à sortir en même temps. Je ne sais pas si tu travailles sur un JRPG en ce moment, mais si tu en sors un, là, c'est un peu peine perdue, quoi. Je veux dire, on est au milieu d'eux, on en a eu 8 ou 9, alors qu'on n'a pas eu pendant je sais pas combien de temps, et on avait eu la même, je sais pas si vous vous rappeliez, avec les différents remakes et versions de jeux Survival Horror.
Ah bah il y a un an,
où pendant longtemps, on n'en a pas eu, et d'un coup, tous les mois, là, il y a eu Alone in the Dark, mais régulièrement, on a du Survival Horror, alors qu'on n'en a pas eu pendant des années et des années, et puis c'est de nouveau, c'est la même chose, c'est l'embouteillage, le marché finalement, et les consommateurs de genre ou de sous-genre, ils sont pas aussi nombreux que ça. Et du coup, là où avant, on faisait notre beurre sur les 3 premiers mois, les 90 jours, enfin, en général, les premiers mois, surtout 3 premières semaines, puis un petit peu après, là, ça devient compliqué parce que t'as plus vraiment de back catalogue. Quand ton jeu, son prix de vente moyen, finalement, sur son existence de vie, sur 1 an ou 2 ans, ça va être 20 balles parce que t'as jamais réussi à convaincre quelqu'un de l'acheter au plein prix, c'est compliqué de s'y retrouver financièrement, quoi.
2023, c'est le bon exemple pour ça. Comme tu dis, où d'habitude, c'est les 4-5 premiers mois de l'année où on voit les grosses locomotives, 2023, en partie dû au report et tout, mais on a eu des jeux jusqu'à la fin de l'année avec au mois d'août des Baldur's Gate, on a eu Alan Wake au mois d'octobre, ça n'arrêtait pas. Et ne serait-ce que pour citer Ubisoft rapidement, on a eu Avatar en décembre, ouais. Le pauvre s'est fait bouffer par tout le reste, quoi, pour le coup. Puis comme plein d'autres jeux, c'est que c'était tellement dense, ouais. Sans parler des indépendants, tu vois, au milieu.
Personne parle de Starfield.
Ah ouais, en plus, ouais.
C'est intéressant que personne ne parle de Starfield.
Ouais, il y a eu d'autres raisons pour lesquelles il n'a pas marché, c'est pour ça.
Mais après, moi, je fais des stats depuis 2014, même 2012, depuis que Steam publie ses résultats annuels de les jeux qui ont le marché, machin, etc. Donc, j'ai quasiment 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans de stats sur Steam uniquement. Donc, ça compte pas la console, mais en même temps, la console en général, les stats console suivent, sauf sur certains jeux, les stats PC. Et il y a quand même une tendance depuis, ça a commencé 2017-2018 avec. C'est passé de 24 à 37-38%, et puis depuis 2019, c'est à peu près 50 à 60% des nouveaux jeux qui sortent. Donc j'exclus les CSGO, ceux qui trustent qui sont des jeux indés. Ouais, okay. Et de nouvelles IP.
Ouais, d'accord.
Et donc, il y a quand même la destruction de valeur avec des gros trucs qui sont de plus en plus chers, qui se plantent, et puis surtout particulièrement quand ils sortent la même année. Et à l'inverse, dès que tu proposes des trucs un peu innovants, un peu différenciants, et en plus à des coûts et à des prix abordables, les joueuses et les joueurs semblent être là, en tout cas depuis 2018-2019, parce que c'est plus de la moitié des succès sur Steam des jeux. C'était 62% sur 230, le top 230 des nouveaux jeux en 2021. 62% c'était des jeux indés. Pareil, 61% en 2022. Là, ça a baissé un peu, 53% en 2023. Mais ça reste toujours finalement la majorité des jeux qui performent le plus dans les 230 jeux qui ont le plus performé de Steam, c'est des jeux indés.
Ouais, parce qu'effectivement, quand tu restes sur les... Et puis Steam a cette capacité communautaire ultra engagée à avoir beaucoup de phénomènes de mode, où t'as beaucoup de petites pépites qui explosent, et pendant 2-3 mois, tout le monde ne parle que de ces jeux-là, que ce soit du Vampire Survivor, des trucs comme ça, et tu vois ces jeux portés. Alors que, quand tu regardes globalement les charts console, PC... merger ensemble sur les top 20 de l'année, la plupart des noms ils te sont familiers quoi. Et quand le nom t'es pas familier, la nouvelle IP elle l'est. C'est-à-dire ça va être ah c'est Hogwarts Legacy.
Dire.
Oui c'est Harry Potter. c'est Spider-Man. Oui c'est Spider-Man. on connaît ça va.
Typiquement là en fait. Si tu prends le c'est pour ça que c'est intéressant le top 230.
Ouais, de prendre la
dans
totale.
Le top 230 le top 20 c'est effectivement ce que tu dis. Même dans les nouveautés c'est des trucs hyper installés etc. Mais par contre c'est à dire qu'il y a quand même 210 autres jeux. Qui peuvent faire viser des qui peuvent amener des nouveaux trucs, etc. Et puis en général, c'est là où le cycle est vertueux. C'est que après, soit les indés grossis sont rachetés, ils ont plus de moyens, ils font d'autres jeux. Arrowhead, qui fait Helldivers, c'est un bon exemple. Ouais. Ils ont jamais perdu un centime sur aucun de leurs jeux depuis qu'ils sont. C'est deux étudiants qui ont été chopés par Paradox au début pour aller faire Magica, qui était un jeu de Game Jam. Et ensuite, Magica, Gauntlet, Helldivers 1, Helldivers 2, etc. Ils ont jamais perdu d'argent sur aucun de leurs jeux. Ils sont plus d'une centaine aujourd'hui dans le studio. Et puis bon Helldivers 2 qui cartonne, donc il y a ce côté apprentissage et croissance. On en revient à ce que tu disais Marc tout à l'heure, c'est comment tu gères, tu maîtrises la croissance. Est-ce que c'est une industrie culturelle et donc du coup t'as un côté moyen et long terme, ou est-ce que c'est une industrie purement financière et t'es là pour le court terme et le cash, auquel cas du coup tu proposes plus d'innovation.
Ouais, et justement je pense qu'on est dans un équilibre où t'as à la fois les deux et en même temps ça t'as par exemple les first party quand on en parlait, quand Last of Us en fait c'était assez drôle parce que dans le milieu du jeu vidéo on voyait la qualité de ce qui sortait, on savait que les coûts de production étaient démesurés, quoi. On savait qu'on n'était pas dans un scope ordinaire, tu vois. Pour les joueurs, c'était juste, ils ont tellement plus de talent. Et non, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, mais il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui va dans ces jeux aussi. Et finalement, quand on voit le coût et qu'on le comparait aux ventes, quand on voit le coût d'un Last of Us et qu'on voit qu'un Last of Us 2, tu sais, dès le deuxième mois, il était déjà à moins 50% et qu'il faisait 8 millions.
Ah, c'est le même
tu dis, écoute, je pense que leur God of War qui en fait 20 ou leur Spider-Man qui en fait 20 sont bien plus rentables avec des coûts de production comparables ou similaires et que là, c'est plus compliqué. Mais le fait de faire des ressorties de remaster tous les 6 mois, le fait d'avoir une série qui va te permettre de pousser le truc, ça, en fait, finalement, ça glorifie l'IP. C'est ultra valorisant pour Sony et pour son image de marque. Finalement, t'as un investissement là-dedans qui est effectivement qui est de l'ordre du marketing, de la communication, et qui se contente pas d'essayer de faire de la renta uniquement sur un jeu, ce qui est une stratégie comme une autre. Il y a pas à critiquer parce que très sincèrement, en tant que joueur, on devrait pas. Et je dis on devrait, mais moi je suis pas que joueur, mais en tant que joueur, on devrait pas. Tant s'occuper des finances et des retours sur investissement des différentes compagnies que de la qualité des jeux qu'ils produisent et du fait qu'ils soient produits dans de bonnes conditions et avec des gens qui sont heureux de faire une proposition qui est intéressante. Après que machin ait gagné de l'argent ou que X devrait pas faire ça, bon, sincèrement, il y a énormément de choses qui échappent à pas mal de monde et nous y compris. Hein, il y a des trucs qui sont des secrets qui sont plutôt bien gardés et des pratiques qui parfois sont assez opaques. Mais au final, on est effectivement, et j'espère, hein, en fait, j'espère qu'on va continuer à rester, surtout pour les gros studios, dans quelque chose qui continue à voir la valeur de l'artistique, du divertissement et de la qualité des projets, parce que c'est ce qui a fait émerger des succès comme Elden Ring, c'est ce qui fait Tu vois, tu peux réussir à concilier une proposition radicale avec un jeu qui est un grand succès public. Puis j'espère qu'on va continuer à en avoir des comme ça. Et en fait, tant que tu continues d'en avoir, en fait, tu continues d'avoir des arguments et des références pour être capable de pousser et de proposer des jeux, quoi.
Mais ça se construit sur le temps. Tu prends Dark Souls 1, ça n'a pas été un hit monumental. Enfin, pour le coup, quand ils pitchaient Dark Souls 1 à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui était convaincu par leur proposition. Du côté des éditeurs, etc. Ils ont pris du temps à raffiner, etc. Et Hades, Super Giant, c'est pareil.
Ouais, mais regarde, ils ont commencé avec Demon's Soul. J'étais là. Et après Demon's Soul, justement, ils sont partis sur Dark Souls. Et en fait, si tu regardes ce qui s'est passé, c'est pas des jeux très chers à produire. Demon's Soul, c'était pas la claque technique que t'as aujourd'hui. Et même les Dark Souls, au moment où ils sont sortis, on n'était pas dans le haut du panier de la technique ou du visuel. Mais il y avait une proposition assez radicale. Et plus ils ont sorti de jeu, plus ils en ont vendu, plus ils ont pris de moyens, plus la qualité a augmenté. Et tu regardes la courbe, effectivement, de vente des Soul-like, c'est absolument ahurissant, quoi. C'est presque, ils doublent quasiment à chaque fois qu'ils sortent un jeu, quoi. Ouais. Donc, tu vois, Dark Souls 3, tu devais être dans les 8-9 millions. Boom, Elden Ring, t'es à 17. En fait, c'est assez effrayant. Bon, les gens se sont posé la question sur Armored Core et est-ce qu'ils allaient transformer l'essai? Non. visiblement, faut s'appeler Soul. Si tu fais ça avec des robots, c'est pas la même. Mais clairement, ils ont réussi à établir un pipeline et oui, ils se sont construits dans la durée. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est la plupart de ces succès, c'est assez rare que ce soit un succès surprise du jour au lendemain et que ça explose. En général, ça se construit avec une équipe, du talent, ça se monte petit à petit et ça se fait voilà, avec intelligence. Et on a vu plein d'indies vraiment passer du indie au double A, se rapprocher doucement du triple A. Et c'est vrai qu'il y a plein de studios qui gagnent aussi... heureusement, tu sais, en expérience et qui viennent proposer des trucs et ils ont un nom suffisamment fort et une aura suffisamment puissante pour être capable de proposer des trucs un peu radicaux.
J'ai l'impression que c'est Remedy qui prend un peu ce chemin-là aussi pour le coup, même si Alan Wake 2 c'est pas un succès de foufou. Non, mais encore une fois, quand au bout de 3 semaines tu proposes une démo de 6 heures gratuite, c'est pas bon signe. Mais mine de rien, c'est un studio qui a... Bah, c'est ça, c'est un gros studio, mais qui a pris 13 ans presque depuis l'Alan Wake 1 pour refaire leur arme, pour reprendre l'argent où il fallait, pour faire contrôle, pour racheter les droits de contrôle il n'y a pas très longtemps à 505, qui font les choses petit à petit. Et même Alan Wake 2, il me semble que le budget n'est pas si fou pour un AAA comme ça, qui doit être autour de 80 millions en marketing.
Ouais, ils ont annoncé un truc de genre 70 millions de dev, ce qui est spectaculairement bas. En même temps, c'est pas un jeu non plus super long, c'est très linéaire. Tu vois, ils sont pas dans le... S'il y a une super réal et une direction artistique ahurissante, il n'y a pas non plus une complexité de fou dans ce qu'ils ont proposé.
Non, c'est ça, mais on retombe un peu sur ce que vous disiez pour le coup. C'est t'as une DA posée pour le coup qui ressemble pas trop à ce que tu trouves ailleurs. C'est un bon mélange d'influences, hein. Et c'est un peu sans aller dans le côté Helldiver où c'est exactement ce que tu sais exactement pourquoi tu viens. Ils sont allés droit au but un peu avec ce truc là. C'est un modèle qui est intéressant au final pour le coup, je trouve, qui coûte pas super cher pour ce qu'ils ont sorti. Tu sais ce que t'as quand tu viens. Il y a un côté un peu honnête pour un AAA comme ça, je trouve.
Bah c'est là où il y a un souci qui devrait être réglé au niveau du rythme de financement, justement, ou de l'économie. C'est plus il y a de financiarisation, plus il y a de réflexion court terme, et donc moins tu as la possibilité de Remedy, Larian, qui a failli couler hein, quand même, Dontnod, Asobo, et ainsi de suite. Tous ceux qui ont passé des steps et qui sont partis de petits indés, etc., et puis jusqu'à proposer des expériences double A+, ou petit triple A-esque, faut leur laisser le temps. Ou Super Giant qui reste dans du triple I du coup et c'est là où la question va se poser de est-ce que l'économie le financement du jeu vidéo leur laissera le temps au futur Remedy, au futur Larian de grandir. Et
typiquement l'exemple de Super Giant est parlant puisqu'on voit que c'est un studio qui est même en termes de popularité et il s'est fait connaître petit à petit un jeu par jeu et on le voit bien notamment avec le... C'est un indicateur parlant, c'est le nombre de reviews Steam qui, de jeu en jeu, en fait, explose à chaque fois. Et bon, après, il y a eu le cas Hades, où il y a eu tout les early access qui a permis aussi de faire connaître le jeu. Et au final, bon, ils partent sur un Hades 2. Mais ce qu'on voit, c'est que ouais, c'est un studio qui s'est construit sur la durée. Et on sent aussi que qu'il y a de plus en plus de studios qui fonctionnent comme ça, qui commencent avec un jeu d'ambition modeste et qui, bah, petit à petit, et qui petit à petit grossissent. On l'a vu avec Asobo, par exemple, c'était intéressant de voir les voir partir de A Plague Tale, qui était... On voyait bien le côté modeste dans la proposition liée aux moyens, et on voit que tout de suite, avec le 2, il y a plus d'ambition derrière. Et moi, c'est des modèles que je trouve plutôt sains, même si parfois, quand on atteint un certain step d'ambition, on y perd un peu aussi sur le plan créatif. Et c'est par exemple, moi, ce que je peux rechercher dans des propositions un peu plus indé ou de jeux à des budgets un peu plus modestes. C'est justement cette prise de risque. Et c'est vrai que parfois aussi, dans cette évolution, on la perd à un moment. Et il y a peut-être, je sais pas, parfois un risque aussi de perdre une partie de sa communauté quand on grossit trop.
Ouais, bah là, c'est en fait, sur la prise de risque, c'est une évidence que les gros AAA vont la minimiser au maximum. Leur objectif, c'est pas de faire des propositions ultra radicales qui risquent de diviser avec l'argent qui est mis sur la table et les financiers qui sont derrière. C'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as quand même beaucoup de gros studios dans lesquels le comité de financement qui va te greenlighter ou pas ton projet, il arrive avec une checklist. Et si t'es pas capable si tu leur dis, tu sais, quand tu commences ton truc et que t'as, mettons, un RPG radical avec une expérience de ouf, et qu'ils commencent à te poser des questions en mode, il y a du multijoueur? Non, on peut pas se retrouver, ok. Est-ce qu'on peut organiser des concerts in-game? Non, pas de concerts in-game? Ah. Et tu vois qu'ils tirent la gueule et que plus tu t'éloignes de Fortnite, plus ils sont tristes, tu vois. Donc c'est difficile de proposer des AAA extrêmement radicaux comme ça dedans avec un gros financement parce que ça coûte plus cher qu'avant. Et pour les plus petits qui ont la croissance, ça c'est un classique, c'est l'accompagnement dans la croissance et la gestion de la croissance des entreprises où dans le jeu vidéo comme ailleurs, ça peut être très 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 difficile parce qu'il y a des studios qui font le choix de rester à des tailles, de rester dans du AA, quitte à augmenter leur budget, leurs moyens, leur réal, mais de jamais aller en dehors de leur zone de confort parce qu'ils veulent rester cette équipe soudée qui se connaît, qui connaît son moteur, qui connaît son envie et ses ambitions. Et puis t'en as d'autres où après l'argent arrive et puis on a envie d'un coup de dire bon bah, on aimerait maintenant faire notre proposition sur ce que c'est un AAA, et là, effectivement, on revient dans beaucoup plus de risques, beaucoup plus de difficultés, des délais de production, évidemment, bien plus longs que sur un petit jeu ou sur un jeu plus modeste, et puis là, ça peut devenir effectivement casse-gueule, ou t'as des milliers de façons de se péter la gueule hein, en gestion de croissance. Ça y est, on va faire notre moteur à nous, c'est bon. Plus la peine de dépendre de UE, Unity ou fouille-moi, on va partir sur notre truc, et là... Ouais, là, tu te rends compte que c'est pas aussi évident que ça. Et t'as plein d'explosions en vol, quoi. Maintenant, on a aussi vu la classique changement de génération, fusion-acquisition. Et ça, les gens font, oh putain, c'est fou, toutes les entreprises qui se rapprochent. Oui, mais ça existait toujours. Hein. Namco Bandai, SNK Playmore,
Square Enix.
Tu sais, on l'a vu depuis toujours. Ça a toujours été comme ça. Et effectivement, c'est une façon à un moment donné de faire évoluer le modèle. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça crache totalement. Et c'est vrai que là, nous, on a quand même le milieu du jeu vidéo, il joue quand même de conjonctures assez assez malheureuses, quoi. On a la Covid qui te booste tout et qui te fausse les chiffres. Il y a une récession derrière, l'économie prend une claque, les licenciements sont massifs, les coûts de production ont explosé avec le changement de génération. Ça fait pas mal absorber. Et puis effectivement, tous les petits studios qui se lancent ont pas forcément l'humilité de se dire, ok, on va commencer un jeu à 20, 40, 50 personnes. On le disait tout à l'heure, j'en rigolais, le nombre de personnes qui sont parties en montant des studios, en levant des fonds, mais 80 à 100 millions, en disant, dans 3 ans, on est 250. Tu sais, t'es là, mais vous êtes 45 studios à dire la même chose dans la même ville. À un moment donné, vous les trouvez où, les 250, quoi? Parce que le pool est limité, hein. On peut pas fournir déjà à l'infini. Puis effectivement, il y a plein de studios, et puis on l'a vu, chez Sony qui a fermé il y a pas longtemps un de leurs studios Game as a Service suite à un audit. Les gars qui devaient travailler sur, alors maintenant le nom de la série me sort de la tête, c'est Twisted Metal, qui devait faire un Twisted Metal online après
la série.
Plutôt la réception assez sympa de la série Twisted Metal justement en transmédia, et finalement ça a été annulé. Donc on voit ce genre de truc où parfois ça part un peu trop vite, trop fort, et ça explose en vol.
Mais Sony, enfin j'ai l'impression qu'on sent une vraie notamment vis-à-vis de leur annonce de ne pas sortir d'énormes jeux, enfin d'énormes suites, enfin de suites de licences populaires pendant X temps, j'ai plus la durée exacte. On sent que côté Sony, il y a. Alors je sais pas si c'est un côté attentiste lié au fait que leur parc est encore limité et qu'ils veulent attendre que ça augmente un peu. Mais typiquement, du côté des joueurs et des fans, ils attendent les Last of Us, tous ces gros jeux.
Ouais.
Et le côté paradoxal en face, c'est que depuis Spider-Man 2, au final en septembre, on sait qu'il va rien avoir pendant plus d'un an. Et en plus, ce qui génère en plus d'autant plus de frustration, puis en plus sur les dernières prods Sony, il y a aussi eu d'un certain point de vue une certaine forme de critique plus ou moins justifiée liée à l'absence de prise de risque. Et en même temps, second truc paradoxal, je mets plein de couches à la suite, c'est que Last of Us 2, qui était un jeu, alors d'un point de vue gameplay, pas très... Enfin, d'un point de vue structure de jeu, etc., qui n'était pas particulièrement original et qui prenait pas des risques, mais d'un point de vue scénario, prenait des risques. On voit que d'un autre côté, la prise de risque a généré aussi beaucoup un bad buzz énorme. Et donc, j'ai l'impression que, par exemple, pour un éditeur comme Sony, il y a toute une conjoncture de choses qui s'enchaînent entre la génération qui a eu du mal à se lancer liée aux pénuries de micro-composants et des terres rares, et notamment liées à l'extraction, etc. Et tout cet et la demande énorme. Et tout cet enchaînement-là a fait qu'au final, on se retrouve dans une situation où un Sony qui, avant fin de génération PS4, était capable d'enchaîner les AAA de manière impressionnante, la fin de génération avec les Last of Us, les Ghost of Tsushima, etc., et même le début de génération qui, au final, ils ont sorti énormément de jeux à la sortie. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un creux qui se fait, qui est sans doute aussi lié à l'augmentation des temps de développement. Et forcément, même si tu as racheté des studios, si tu as 20 studios, mais que tous les temps de développement, ils doublent, bah forcément, si avant, tu pouvais sortir 3 jeux par an, bah, tu n'en sors plus qu'un et demi par an. Et si, dans début de génération, tu en as sorti 15, bah, forcément, pendant un moment, tu as forcément une grosse période de creux. Mais la situation, du coup, n'est pas simple, même pour des énormes constructeurs, éditeurs comme Sony.
Non, mais elle est... Alors, clairement, pour les éditeurs, elle est simple pour personne. Et sur la gestion du portfolio, c'est éminemment complexe parce que tu es aussi dépendant des aléas de la production, des retards que tu vas prendre, des projets qui avancent bien. Et donc, tu peux te retrouver avec des périodes où, si tu fais pas comme Nintendo, c'est-à-dire qui est, à mon sens, le seul éditeur que je connais qui peut avoir des jeux complètement finis dans le pipeline et attendre un an avant de les sortir, parce qu'ils peuvent. Et du coup, ça leur permet d'avoir des années toujours assez dynamiques, toujours rythmées avec des sorties de jeux plus ou moins gros, hein, mais toujours de la sortie de jeu et du jeu de qualité en général. Il y a beaucoup d'éditeurs pour qui c'est complexe. Je serais taquin et Dieu sait que je le suis. Microsoft, ils ont eu un an et quelques pour nous sortir un banger, pour nous sortir vraiment un jeu qui met tout le monde d'accord, et ils n'ont pas réussi. C'est pas Starfield qui a réussi à mettre tout le monde d'accord, c'est pas Forza qui avait un boulevard après Gran Turismo devant lui et qui a pas réussi à transformer l'essai. À date, on attend encore le gros titre de Microsoft qui va mettre... C'est pas leur Halo, c'est pas leur... Tu vois, eux ont du mal sur le plan qualitatif, mais ils inondent le marché de jeux très bons, voire bons, qui ensuite grandissent, comme des Sea of Thieves, etc., mais qui n'ont pas tendance à marquer comme des must-have. Sony a une plus grosse capacité à sortir des gros titres de qualité, mais le problème, c'est qu'ils ont tellement communiqué et glorifié à dessein un nombre limité de leurs licences, que le reste, comme leur truc All-Star, là, qui était un risque, que le reste des jeux qui sortent n'est même pas considéré comme des jeux pour les gens ou pour le marché. Or, ils ont cherché, en fait, si tu veux, ils ont cherché à amener le terrain de la bataille sur le triple A de qualité parce qu'ils savaient qu'ils étaient très forts là-dessus. Mais le problème, c'est la capacité à en sortir. Et donc, quand t'arrives plus à en sortir, bah, le problème, c'est que t'as plus rien à proposer parce que si tu sors un double A super original et intéressant, on va te reprocher que ce n'est pas les triple A sur lesquels tu t'étais engagé à livrer. Et effectivement, le début de génération a été extrêmement généreux, mais en même temps, tous les jeux sont sortis sur PS4, donc est-ce qu'on était plus sur une fin de génération PS4 que sur une début de génération PS5? Les premiers jeux de génération PS5 commencent à arriver, et effectivement, avec un nombre limité de studios, avec des ressources demandées de plus en plus importantes, avec une espèce de Nintendo fait aussi beaucoup ça, tu sais, il y a une espèce de prétention de, pendant longtemps, Sony le faisait, « Oh, ça, c'est Santa Monica, hein, ils sont 300, ils ont fait le jeu. Ah, ça, c'est machin, ils sont 200, ils ont fait le jeu. » T'es là, « Non. » C'est nous, en tant que dev, on était « Non. » Tu sors pas ça à 200. Et en fait, tu vois après, tu regardes les crédits sur Mobile Games ou autre, t'en discutes avec les gens, tu vois les crédits du jeu. Les mecs, ils sont 1500, il y a 7 studios en codev dessus. Tu fais, ben voilà, ton jeu, tu le fais pas à 300. Tes studios en codev, t'en as pas une infinité. Si chacun de tes jeux te demande autant de studios en codev, à un moment donné, tu vas avoir du mal à en trouver. Tu vas avoir des difficultés à avoir des gens disponibles simplement pour réussir à finir tes jeux, qui sont extrêmement exigeants, sont vraiment chronophage en termes de développement, mais aussi mange énormément de ressources humaines, bah forcément, quand tu sors un jeu et que t'es Naughty Dog et que, en général, t'es pas réputé pour les sortir vite et que les dernières années peuvent être longues et que t'es plutôt sur les 4-5 ans pour sortir un jeu et que t'as un jeu gaz qui marche pas et qui est annulé, bah c'est évident que tu vas mettre vraiment du temps à sortir un autre jeu. À côté de ça, on va avoir des studios comme Insomniac, je sais pas comment font ces monstres, mais ils te sortent un jeu par an depuis le début de la génération. J'imagine que les DA, ils doivent être mais rincés. Donc ils doivent probablement déjà être bien en tête sur, bah on sait qu'ils sont sur Wolverine, mais tu sais, ils ont un autre projet de Spider-Man, ils ont encore un autre jeu. Et là, les gars, c'est des êtres humains, ils peuvent pas non plus sauver Sony à eux tout seuls en sortant un jeu par an. Après, t'as nos petits gars, c'est Sucker Punch qui fait les Ghost of Tsushima, ouais. qui avait fait les Infamous. Bah, c'est pareil. Tu regardes le rythme de prod entre les Infamous et les Ghost of Tsushima, le premier qui leur a pris beaucoup de temps, le deuxième qui va être full next-gen, tu vas t'attendre à un 3-4 ans de développement, quoi. Donc évidemment que quand le précédent est sorti il y a 2 ans ou qu'ils ont fait un port, le jeu d'après, il va pas arriver. Gran Turismo, il est parti pour rester. Après, Sony a été volontairement malin en disant il y aura pas de gros AAA de séries connues. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de gros AAA. Oui, ils peuvent très bien sortir une nouvelle IP, tenter de la lancer, etc. Et ils se sont toujours historiquement appuyés et même construits sur les third. C'est ça qui est assez drôle. Les gens ne jugent que par les first party Sony. On va dire, écoute, quand la PlayStation s'est imposée, c'était grâce à Tekken, c'était grâce à Final Fantasy, c'était grâce à que des jeux de third. Aujourd'hui, leur partenariat avec Square Enix leur permet d'avoir une super image. Rebirth, c'est un jeu qui, au-delà des ventes et autres, en termes d'image, de buzz, de qualité, de retour, est vraiment très très bien dans le portfolio. Il fait oublier Forspoken et FF16. Ça fonctionne quand même très fort. Et Dieu sait qu'ils vont avoir d'autres partenariats à mettre de l'avant pendant le reste de l'année. Ben, rien que, pour le coup, Helldivers, tu vois. Helldivers, encore une fois, bien joué de leur part. Et effectivement, c'est pas un triple A annoncé Sony, mais on va pas se mentir. S'ils communiquaient aussi beaucoup sur ce genre de jeu, ça leur retomberait peut-être un petit peu moins dessus, parce que là, je suis d'accord d'avoir voulu cristalliser tous les regards et l'attention sur les jeux first party triple A. C'est extrêmement dommageable, parce que la capacité que tout le monde a, même les plus gros, hein, même les Activision, même les Ubi, d'en sortir énormément à l'année, elle est quand même limitée, quoi. Tu t'en sors 2 gros par an en ce moment, c'est difficile de faire plus, quoi.
Ouais, et puis des jeux comme Helldiver, qui en plus, dans le marketing, quand tu vois les trailers, ils sont brandés avec le petit carré PlayStation Studio. Tu vois que c'est une licence en plus qui permet de toucher un nouveau public, là où le solo narratif, comme on l'entend, c'est pour c'est à la fois grand public, mais en même temps j'ai l'impression que ça touche une cible assez limitée, enfin relativement limitée, là où là pour le coup le jeu, c'est le Helldiver, enfin moi j'ai tous mes amis même qui étaient moins jeux vidéo qui se sont tous mis dessus parce que c'était le phénomène et ils avaient tous envie d'y jouer. Et au final, c'est moi qui traîne pour aller avec eux parce que moi, j'ai 50 jeux à faire et que, mais eux, ils ont déjà 50 heures sur le jeu, tu vois.
T'as les marques iconiques, tu sais, Hogwarts Legacy, Spider-Man, qui sont des gros trucs qui sont aussi solo et avec Sony. Mais truc intéressant, si tu regardes le top 5 de l'année dernière, je sais plus combien, mais une grosse majorité des jeux, c'est des jeux qui avaient du co-branding avec Sony. Hein. FIFA, Call of Duty, Hogwarts Legacy. Donc, c'est quand même assez drôle parce que, dans la perception, en tout cas grand public ou pour beaucoup de personnes, ce sont entre guillemets des jeux Sony parce qu'ils ont été brandés comme ça, ils ont été amenés comme ça sur le marché, ils ont plus vendu sur la console de Sony qui est plus installée. Donc il y a aussi une espèce de côté où leur image de marque, elle rayonne et elle bénéficie de tous ces partenariats. Ils n'investissent pas lourdement là-dedans pour rien. C'est à dessein. Et effectivement, pour beaucoup de personnes, de toute façon, on le disait, tu vois, tous les ans, ça va être le Call of de cette année, le FIFA de cette année et le nouveau AAA. Si on n'a qu'un seul, bah, c'est Spider-Man, ce sera celui-là. Et ça, entre guillemets, ça suffit. Maintenant, le souci est qu'effectivement, en termes de financement des jeux, on a vu, ça suffit plus. Et c'est pour ça que tu vas aller chercher le PC. Et c'est pour ça que tu vas aussi, avec un Last of Us, ressortir le jeu à de nombreuses reprises sur plein de générations. Et on dit Last of Us, ça fait rigoler tout le monde. GTA, il est quand même sorti sur 3 générations, quoi. Il est sorti optimisé sur des tonnes de systèmes. Il arrête. C'est exactement pareil. C'est aussi une très très bonne façon d'amortir ton jeu. Hein.
Et pour le coup, le problème aussi à avoir du mal à sortir des jeux pour plein de raisons, comme Naughty Dog, tu l'évoquais, notamment lié à l'annulation de leur jeu multijoueur service dans l'univers de Last of Us, c'est que pour le coup, toutes les ressorties de Last of Us à terme, alors c'est plus pour les fans de la marque, mais ça génère aussi une certaine frustration parce que. Enfin, on l'a aussi un peu entendu en janvier avec la sortie du remaster de Last of Us 2, c'est que il y a aussi un côté, un certain ras-le-bol de les voir toujours ressortir les mêmes jeux et à pas arriver à sortir, et il y a un côté... Ouais.
C'est normal, pour le joueur, moi je le comprends, et l'image de marque, elle en prend fatalement un coup quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, sur PS5, Naughty Dog a fait plus de remakes que de jeux. Ouais, c'est douloureux à entendre, quoi. Tu te dis, et même pour eux, hein, tu sais, je te garantis que pour le studio, à mon avis, ils doivent pas être à la fête, hein, ils doivent pas trouver ça très drôle de ne faire que ça. Mais ils font pas que ça, ils font des choses qu'on voit pas et donc sur lesquelles ils communiquent pas, et c'est ça qui est difficile. Et de l'autre côté, c'est vrai que c'est pas évident, et puis je comprends que ce soit difficile. Maintenant, tu dis pour les fans de la marque, c'est clair, il y a les fans de la marque qui adorent le jeu, qui vont se le racheter. Il y en a qui vont le racheter juste pour avoir l'édition PS5 et puis la mettre à côté. Maintenant, tu vois, sur le remaster du second, l'upgrade à 10 balles, je trouve ça très 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 honnête. J'ai pas vraiment de soucis du coup, contrairement au premier, je trouve que c'est plutôt, tu vois, c'est plutôt une bonne stratégie. Ils ont bien entendu ce que les gens avaient à dire. Et faut pas oublier, c'était surtout le cas pour le premier, évidemment, c'est moins le cas pour le second, mais il y a quand même des tonnes de joueurs qui embarquent ou qui arrivent sur les consoles et qui ont fait ni le premier ni le second. Et vu les chiffres de vente, il y a quand même beaucoup de joueurs sur PlayStation qui n'ont jamais touché à Last of Us. Hein. Quand t'as un parterre de plus de 100 millions de consoles installées avec 8 millions de joueurs, je te garantis que t'as encore énormément de joueurs PlayStation à aller chercher. Puis en ressortant ta série télé pour dynamiser le truc et revenir avec le jeu, t'as potentiellement, tu peux aller chercher plus de ventes. Si les gars vont gratter un 3 millions de ventes, et je pense qu'ils sont dans ces eaux-là pour les remakes, bah tu cumules ça avec le premier, t'arrives dans les 11 millions, ouais, là t'es sur un truc qui est déjà pas dégueu. Hein. Après, j'aimerais plus que des remakes. Hein. C'est sûr que j'attends pas les remakes de Spider-Man 2 ou celui de Ghost of Tsushima, tu vois, J'attends la suite de Ghost of Tsushima et d'autres jeux.
Non, puis c'est que mine de rien, après, alors je sais pas à quel point il y a un ruissellement, mais PlayStation, ils ont aussi un bon truc vis-à-vis des jeux indépendants. Ne serait-ce que l'année dernière, c'est eux qui avaient brandé Humanity, par exemple, qui a pas eu le succès qu'il mérite, mais mine de rien, c'était un jeu qui était brandé PlayStation. En début d'année, il y a eu Ultros et Pacific Drive, qui sont disposés sur Steam, hein, mais ouais. Ils ont été très brandés, mine de rien, PlayStation.
C'est notamment la branche PlayStation Indies, en fait. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de post sur le blog avec les PlayStation Indies, mais régulièrement, il y avait un petit post sur le blog où ils présentaient 5, 6, 7 jeux. Et en fait, c'est Pacific Drive, Cult of the Lamb. Il y a plein de jeux comme ça. En fait, si tu suis l'historique, ils ont été PlayStation a marketé en partie les jeux et. Et c'est une bonne chose, parce que mine de rien, s'ils ont du mal à sortir des jeux de leur cadre interne, c'est des jeux qui sont très bons, qui marchent bien, qui donnent une bonne image de marque. Donc d'un point de vue stratégique, il y a un pari gagnant.
Chez Indy, je sais pas c'est quoi votre perception. Moi, j'ai l'impression que globalement, tous les constructeurs font plutôt un bon taf, quoi.
Franchement, ouais.
Sur la Switch, c'est quand même la fête aux Indies, tu vois. Ils les mettent quand même énormément de l'avant. Et Microsoft, dans le Game Pass, en termes de curateur et de pousser des jeux indie, puis même d'avoir, tu sais, maintenant, ils ont... Je pense qu'il y a aucun des trois constructeurs qui n'a pas un live spécifique dédié aux indies.
Non, c'est ça. Ne serait-ce que le Game Pass, comme tu dis, quoi. Xbox, hier, qui mettait, qu'on s'appelle Open Rose, qui sortait, nouveau jeu Annapurna.
Ouais.
T'as au moins un bon jeu indé qui sort par mois, quoi. Ouais. N'importe quelle plateforme.
Ouais, ouais. Et tu sais, je veux dire, il y a cet aspect communication en plus, enfin, au-delà du financement, tu vois, mais il y a l'aspect aussi communication où tous maintenant ils vont avoir un PlayStation Showcase, un machin dédié aux jeux indie. Nintendo va avoir un Nintendo Direct sur les jeux indie. Microsoft va avoir un truc sur les jeux indie. Donc, tu sais, ils ont quand même pris le truc à cœur, puis ils ont tendance à pousser cette typologie de jeu. Je suis assez... vraiment content. Moi, ça fait partie des trucs qui me donnent de l'espoir, tu vois. C'est comme pour le cinéma avec le ciné indépendant. Hein. Le fait de voir ces jeux-là qui sont plus radicaux, qui proposent des expériences différentes, intéressantes, d'autres longueurs, d'autres approches, avec de l'humour, avec des sujets qui sont beaucoup moins traités, des trucs moins classiques. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trippant de voir que c'est plus des jeux qui sont laissés à l'abandon dans un coin et qui doivent compter sur le bouche à oreille. C'est des jeux qui, pour certains d'entre eux, hein, il y en a évidemment des tonnes, mais qui sont quand même mis de l'avant et t'as des belles découvertes. Hein. Juice Hunt l'année dernière, Chance of Senark, voilà, j'avais surkiffé. Y a quand même plein de jeux absolument incroyables que je suis content de voir quand même, tu vois, présentés. Et pas caché dans les recoins des stores.
Mais c'est normal en tant qu'industrie. Tu regardes le cinéma, Coppola, Scorsese, ils ont commencé, c'était des réalisateurs indés. Tarantino, c'était un réalisateur indé, et ainsi de suite. Donc, heureusement, parce que sinon, si tu comptes que sur le énième remake, on a vu ce que ça a donné dans les séries télé 2005-2010. Le remake de Ma sorcière bien-aimée, enfin, toutes les séries des années 50-60 qui ont cartonné. Tous les remakes faits un peu à la va-vite 2005, 2010, 2015, ils sont tous vautrés. Parce que c'est l'industrie de l'entertainment, donc tu as besoin, pour en venir à ce que tu disais au départ, d'être entertained. Donc d'avoir de l'innovation, d'avoir des nouveaux mondes, des nouvelles histoires, etc. Et après, c'est là où, est-ce que ces studios-là, on va leur permettre de grossir comme Supergiant ou d'autres? Ça va être toute la question.
Mais c'est que mine de rien, j'ai l'impression que pour aller là-dessus, qu'on voit de plus en plus de jeux indépendants sortir de festivals. Je pense à Amaze par exemple à Berlin, où avant c'était vraiment du jeu underground, très underground qu'il fallait connaître. Je regarde ne serait-ce que ceux qui sont sortis l'année dernière de Amaze. On a Season, Letter to the Future qui a eu son petit succès au final sur PlayStation. Il y a comment ça s'appelle, Viewfinder aussi. Donc t'as vraiment ce truc où c'est de plus en plus. Enfin, la frontière se fait de moins en moins. Je sais pas si on a cette vue-là, parce qu'au final, on est dedans, vous encore plus que nous, pour le coup. Mais il y a de moins en moins le côté jeu vidéo d'art et essai. Ça devient de plus en plus accessible aussi, quoi, pour le coup. Bah, comme tu dis, on n'a plus besoin d'aller dans les tréfonds des stores pour trouver des pépites comme ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, ça c'est. Je pense que côté, bah, tu pourras. Je pense que tu pourras dire côté focus et autres, Yves, ou ton expérience. J'ai l'impression aussi que il y a de plus en plus de gens compétents qui les aident aussi à marketer et à communiquer vachement mieux qu'avant.
Oui, et puis eux-mêmes sont plus compétents. Hein. C'est-à-dire que il y a pendant très longtemps, le poids des éditeurs versus les studios était totalement disproportionné. Les éditeurs étaient vraiment des donneurs d'ordre, et donc la créativité des studios, bah, souvent. Était pas étouffé, mais en tout cas drivé par les éditeurs, avec l'essor de Steam, etc., ont permis, parce qu'ils proposaient du gameplay différenciant, parce qu'ils proposaient des mondes différenciants, parce qu'ils proposaient de la DA différenciante, ont été des succès incroyables. Là, la balance de pouvoir entre éditeurs et développeurs s'est améliorée, et donc comme disait un grand penseur, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités, et aussi, du coup, les studios maintenant ont plus de responsabilités sur comment eux-mêmes communiquent, comment ils se marketent en tant que studio indé. Encore une fois, Supergiant est un bon exemple, ou Arrowhead, etc. Donc ils ont aussi plus de liberté, mais aussi de responsabilité côté marketing. Et ils sont plus juste à subir le marketing des réussis ou ratés des publishers. Et après, il y a un truc aussi qu'on voit changer et qui a été un gros sujet pour Ubi il y a quelques années. Voilà, c'est par rapport aux autres industries d'entertainment, dans le livre, tout le monde peut citer, dans l'industrie d'édition, tout le monde peut citer des auteurs, des autrices, etc. Dans le cinéma, on peut citer, je ne sais pas, David Lynch, Scorsese, ce qu'on veut, Tarantino, machin. Il y a ce côté création de l'attachement et de l'engagement des joueuses et des joueurs vis-à-vis des créateurs. Maintenant, tu as des noms qui sont connus de créatrices et créateurs de jeux vidéo et que les gens vont suivre. Peu importe d'ailleurs s'il bouge de studio, c'est le prochain lot de trucs, de chouettes, de bidules, de machin, et ainsi de suite. Versus les strates marketing des gros éditeurs ou des gros studios AAA en général, qui vendent ça comme un produit type bah, c'est le nouvel iPhone, c'est le nouveau Tom Clancy, c'est le nouveau Call of Duty, c'est le nouveau, etc., ainsi de suite. Et de plus en plus, il y a une partie de l'audience qui s'en fout un peu d'acheter un nouvel iPhone, un nouveau FIFA, mais qui veut acheter le nouveau jeu de Lucas Pope, le nouveau jeu de ainsi de suite. Et ça, c'est intéressant comme évolution.
J'ai l'impression qu'on pourra presque le rapprocher de ce qu'on disait, le plafond de verre avec les consoles, même le plafond technologique. Au final, ça devient de plus en plus dur d'avoir une vraie percée technologique d'une génération sur l'autre. Voilà un petit peu là-dessus. Du coup, à un moment, t'attendais le nouveau jeu de tel éditeur parce que tu savais que t'allais en prendre plein la tête. Là, maintenant, au final, cette politique des auteurs, on la voit de plus en plus chez les indés. On a tous ceux de PlayStation, on va pas les renommer, mais les Neil Druckmann, etc. Mais au final, chez les indés, t'as tout le monde. Enfin, je sais qu'en tout cas, j'ai hâte d'attendre le prochain jeu de Lucas Pope, le prochain jeu de Gareth Damian Martin. Et au final, presque à oublier des fois le nom des studios où tu te rappelles plus le nom du créateur. C'est vrai que c'est intéressant de voir cette politique des auteurs arriver de plus en plus dans le jeu vidéo,
c'est
génial.
Ouais, mais c'est aussi lié à un besoin de marketer, justement, pour pouvoir être capable d'avoir, tu sais, des interviews avec les médias et autres. Il fallait avoir des figures représentantes de ton industrie. Et c'est là que c'est toujours un peu complexe, parce que d'un côté, oui, clairement, ton directeur créa, c'est ton chef d'orchestre. C'est la core team qui présente le cœur du jeu, mais tous les gens qui bossent dans l'industrie diront et savent, un jeu c'est collectif, c'est jamais une œuvre individuelle, et il y a des auteurs qui ont tendance à effacer les équipes qui ont derrière eux, et je t'avoue que le petit côté un petit peu putassier et revanchard qu'on peut avoir de temps en temps, c'est le plaisir qu'on peut prendre aussi à voir des gars claquer les portes en grand ou affirmer très fort que ils vont partir pour faire le jeu dont ils ont toujours rêvé et parce qu'ils ont toujours été censurés, t'sais, en oubliant complètement que au-delà effectivement hein, des directions, des lignes éditoriales, stratégiques, business qui peuvent les guider, il y a les supports de talents, de directeurs artistiques, des équipes online incroyables, du QA, du test. Et de les voir 10 ans après toujours pas arriver à sortir de jeux ou sortir des jeux, tu sais, qui sont complètement dans la lumière, et t'en vas dire bah bizarrement maintenant que t'es tout seul et que tu peux faire tout ce que tu veux et que t'as les moyens, ça marche quand même pas tant que ça, parce que l'équation qui consiste à croire que ça marche à tous les coups est quand même plus complexe que ça. Même si, et là je suis totalement d'accord avec vous, avec un Kojima, un Ken Levine, etc., on sait que c'est des grosses personnalités qui vont avoir des visions sur tout, et qui vont avoir leur mot à dire sur tout, et on reconnaît leurs pattes à l'intérieur de leur jeu, et on sent que c'est, tu vois, il y a une vraie essence. Donc je comprends, on comprend tous l'intérêt des publics, des gens à les suivre, mais tu vois, on a par exemple starifié des personnes au moment du lancement de God of War 2018, et t'as envie de dire, c'est des gens qui étaient dans l'anonymat sur les God of War avant, ou dont on parlait pas, qui n'ont pas forcément travaillé sur Ragnarok. Il y a des trucs qui sont assez drôles où tu te dis « Oui, on peut quand même, sans starifier des gens, Ghost of Tsushima ou d'autres, sortir des titres absolument excellents. » Mais c'est vrai que ça, c'est le couteau à double tranchant, c'est-à-dire que ça fait vraiment du bien de mettre des noms et d'avoir des gens qui puissent s'exprimer sur, tu sais, sur l'art, sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait. Il y a des personnalités absolument géniales à suivre dans le milieu du jeu vidéo. Après, c'est vrai que le côté où on essaie de faire attention, c'est de pas le transformer. Et c'est souvent, c'est pas eux, hein, c'est très souvent les joueurs qui le transforment en ces machins. C'est le jeu de, c'est le truc de. Oui, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. C'est pas lui tout seul avec ses petites mains, hein, qui va faire le moteur, le test, qui va designer la moindre feature à l'intérieur du jeu. C'est vraiment des œuvres qui sont beaucoup plus collectives que ça. J'avais beaucoup aimé à la GDC le talk des gars de Jedi Survivor qui montrait que pour une simple feature, le nombre d'équipes et de personnes qui avaient bossé dessus. Donc il y a un talk dessus et donc tu vois, t'as un énorme slide PowerPoint tout homme, je sais pas, 80 personnes, pour dire cette toute petite feature, c'est tous ces gens-là qui ont été nécessaires pour réussir à la faire. Donc je trouvais le truc.
Et là, c'est de la responsabilité des éditeurs ou des studios. Il y en a qui prennent type Larian, par exemple. Larian, Sven, il fait 2 talks dans l'année.
Ouais.
Et je peux te dire qu'il y a tous les events de la Terre, toutes les conférences de la Terre qui veulent avoir Sven. Et la politique de Larian, c'est non, moi j'en fais 2, point. Et t'as plus de 15 personnes sur des métiers différents, voilà, qui vont parler absolument partout, à Bilbao, Game Camp, ainsi de suite, voilà. Et ça, c'est bien parce que du coup, ça donne la vraie vision collective, mais en même temps, ça met des visages.
Ah ouais, mais pour moi, ça, c'est le truc absolument parfait, hein. C'est le compromis idéal qui permet de montrer le florilège des gens qui sont dedans. Après, il peut se le permettre parce que justement, lui peut mettre les conditions, il fait peu de talk, tout le monde le veut, donc il arrive à imposer son équipe. Il y a d'autres panels où c'est clairement plus compliqué, puis t'arrives à avoir beaucoup moins de monde. Et là, c'est pas une frustration où on veut parler de tous les métiers du jeu vidéo, etc. On comprend qu'il y a des trucs qui sont plus sexy, des choses qui se vendent mieux, etc. Moi, c'est vraiment dans le sens... C'est vrai que c'est à la fois génial de mettre des noms sur des réals et autres, un peu comme on le fait pour le ciné, mais... On n'a pas exactement le même impact, quoi. C'est pas exactement la même chose qu'un directeur ciné pour avoir aussi travaillé sur des films ou d'autres trucs. C'est pas tout à fait la même que ton réal, même s'il y a des bras de fer avec les producteurs. C'est pas tout à fait pareil parce que là, effectivement, l'éditeur ou le directeur du film, lui, va être présent sur les phases de script, il va être présent sur les phases de design des décors, il va être présent quand on va les implanter, il va être là pour filmer, il va être là pour la direction d'acteur, il prend des calls sur tout. C'est un petit peu différent d'un directeur de créa, d'un producteur, d'un directeur artistique, d'un game director, etc., qui se partage les trucs, et c'est plus la core team, en fait, qui est vrament le cœur du truc et qu'on met de l'avant.
Dans des triple A, effectivement, à 1200 personnes.
Voilà.
voilà. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que les joueurs et les joueurs, ils suivent plutôt les créatrices et créateurs indés.
Ouais.
Parce que là, ils sont là depuis le départ, ils font tout et c'est des petites équipes. Donc c'est aussi plus simple.
Oui, c'est vrai, les incarner et puis d'avoir. Ouais.
Après, on a quand même un rapport à la personnalité dans les jeux japonais, c'est-à-dire que les Kojima, les Yoko Taro, etc., je trouve qu'on le retrouve beaucoup plus au Japon où on va avoir des personnalités très rattachées à certains studios licences, là où peut-être en Occident, c'est peut-être un peu moins le cas dans certains studios, à part quelques exceptions.
Mais c'est parce qu'au Japon, c'est très culturel. Hein. Je veux pas y aller avec les gros clichés. T'sais. On a Tekken, on a Arada, avant on avait Ono. T'sais, on a, sur Street, on a une personne qui incarne le truc. Mais je vais te donner un exemple qui nous avait surpris, quand j'avais commencé à travailler dans l'édition, notamment à travailler avec des mangaka. Bah c'est qu'en fait, on crédite que le mangaka, quoi.
Ah.
En général, t'as écrit Akira Toriyama, fin. Le mec, il a beau avoir une équipe de 7 personnes, il y a un mec qui est crédité, pas les autres. Les autres sont invisibilisés. Et donc, il y a toujours eu... le studio Ghibli, c'est une personne, tu vois. il est incarné par une personne, c'est le dernier Miyazaki, c'est Miyazaki. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas que Miyazaki pour faire un film d'animation, mais que c'est son studio, c'est son bébé. Et il y a cette espèce de rapport très... où ils sont... pour avoir travaillé aussi avec quelques équipes japonaises parfois, ils sont vraiment dans le micromanagement, mais à un niveau intense qui n'est pas une habitude occidentale, quoi. C'est-à-dire que tu ne vas pas demander au directeur créa de mettre son nez dans le moindre sous-système, alors que eux peuvent avoir cette intensité, quoi. Ils sont capables d'aller chercher tous les petits trucs et d'avoir un avis et une opinion sur tout, et il n'y a rien qui avance tant qu'il n'y a pas eu la green light. Puis c'est aussi c'est une façon de travailler qui honnêtement serait mal acceptée chez nous parce que trop contraignante et parce qu'on a besoin de plus de collaboration, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle tu vois les relations aussi bottoms up comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut que la base soit capable de remonter et des feedbacks et du contenu au-dessus de la pyramide. Il faut que quelqu'un qui design une feature très concrète soit capable lui de te remonter quelque chose et de la faire évoluer. Parce qu'il a remarqué quelque chose, et c'est plus trippant pour le travail de tout le monde que d'être sous une espèce de vision unique, mais il y a ce sens complètement du collectif au Japon qui fait qu'ils n'ont aucun problème à se mettre sous la vision d'une personne qui finalement prend quasiment tous les calls des plus importants aux moins importants, et du coup incarne complètement le projet, tu vois. Chez From Software, c'est le cas, chaque Final Fantasy, t'es capable de dire qui fait quoi, tu vois, c'est vraiment incarné, quoi.
Et puis même Kojima qui met son nom partout dans tous les compartiments.
Ouais, mais lui, ça nous fait même rire, tu sais, ça nous fait même rire, oui, tellement t'es tellement là, mec, calme ton melon, quoi.
Ouais, c'est ça, c'était...
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, FF aussi, c'est intéressant pour soi, parce que tu peux associer Nomura à certains jeux, après il y a les Kitase, etc. Et si tu suis un peu l'historique, en fait, des équipes, tu vois en plus les inspirations entre les jeux et tu vois à quel point ils ont un impact aussi sur les propositions.
Ouais, complètement. Tu vois, et je te dis, c'est pour nous, tu vois, c'est quasi du négatif du micromanagement, parce qu'on se dit, mais avec des gars aussi solides, avec du temps de cerveau aussi nécessaire, tu vois, on veut les mettre sur les gros chantiers seulement. Mais c'est une façon, une organisation qui est complètement différente, quoi, qui a rien à voir avec la façon que nous on a de travailler. Et c'est vrai que c'est aussi inspiré par cette façon de se mettre en avant que on a commencé tout doucement. Bah, tu sais, à Ubi, ça, les gros gros trucs, ça avait commencé sur Assassin avec Jade Raymond qu'on avait mis de l'avant, puis Patrice Desilets, etc.
Ou Jason.
Ouais, bah oui.
Je pense qu'on va conclure tranquillement là-dessus. On espère en tout cas que les auditeurs vous auraient eu un bon panel de qu'est-ce que c'est un budget de jeu vidéo et comment ça peut s'expliquer, d'où viennent les contraintes. C'est compliqué, c'est une des premières choses qu'on a dit, je pense qu'on peut finir là-dessus. Faire un jeu, c'est compliqué, ça coûte cher pour plein de raisons différentes. Et en tout cas, un gros merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, c'était plus que passionnant. J'espère que ça le sera pour les auditeurs, mais en tout cas, je parle pour Stéphane et moi, c'était passionnant de vous écouter, donc merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter tous les deux, en tout cas.
Merci à tous les deux. Merci.
Et pour les auditeurs, encore merci d'être arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou des étoiles sur Spotify, sur Apple. C'est stupide à dire à chaque fois, mais mine de rien, ça aide au référencement. Ça peut faire découvrir notre contenu à des personnes qui n'en sont pas familières. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. À bientôt tout le monde.
À bientôt.